Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette matinale week-end un petit peu enrhumée ce matin. Toutes mes excuses par avance si ça déraille un petit peu. On est reparti pour un tour côté actu, hein, vous le savez, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités. 6h20, est-ce qu'il y a une hausse des prix exagérée? On posera la question à Michel Biérot, il est directeur exécutif achat et marketing pour Lidl France. Et puis à 7h10, on va parler prosélytisme religieux sur les réseaux sociaux avec Hakim Elkaroui, essayiste et consultant pour le réseau social TikTok notamment. Roland Pérez, Valérie Darmon éclairent notre lanterne sur les questions juridiques ou du quotidien. Est-ce que les mutuelles pour animaux sont utiles? C'est au programme ce matin. Et puis, votre patron doit-il participer à vos frais d'électricité et de chauffage si vous êtes en télétravail? Autre question que l'on se posera ce matin, alors que Christophe Bordet, lui, nous décrira le métier de chasseur d'appartements. Notre balade du dimanche, elle nous emmènera du côté du Périgord vert. On est très heureux de vous réveiller, en tout cas ce matin. Il est 6h. Et le premier journal.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et le premier journal, c'est avec Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les paroles face aux actes, malgré l'annexion officielle de 4 territoires ukrainiens par les Russes, Kiev vient de reprendre une ville stratégique dans la région de Donetsk et Volodymyr Zelensky assure que d'autres victoires vont suivre.
À la une également, l'affluence des grands jours. Hier, dans les boutiques Camailleux, dernier baroud d'honneur avant la fermeture définitive des plus de 500 magasins de l'enseigne, placés en liquidation judiciaire.
Et puis quand Lionel Messi retrouve sa forme de jeunesse, Paris reprend la tête de la Ligue 1 après une victoire face à Nice hier soir.
Un grand jour de course à Longchamp. Après le journal, Thierry Léger vous donne les pronostics pour le prix de l'Arc de Triomphe. Et puis la hausse des prix ne reflète-t-elle pas vraiment que l'inflation ou est-ce que les marques en profitent? On verra ça avec Michel Biérot, le directeur achat et marketing de chez Lidl. Mais avant cela, première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et bien ce dimanche est une journée de transition vers le soleil et la douceur. Mais en attendant ce matin, il pleuviote sur toute la moitié nord et un gros quart sud-ouest est dans le brouillard.
Merci Valérie, météo complète à la fin du journal. Clotilde, c'est donc un nouveau revers pour la Russie.
Les Ukrainiens sont entrés dans Liman, ville située dans la région de Donetsk, qui vient d'être annexée par les Russes. Coup dur pour Moscou, d'autant que cette zone est aussi un nœud ferroviaire stratégique. Alors forcément, le président ukrainien a salué cette victoire, Alexandra Gégy.
Oui, l'Ukraine continue sa stratégie et ne semble pas entrer dans le jeu du référendum russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a assuré, les récentes annexions russes ne changeront rien sur le terrain.
L'Ukraine va tout récupérer, tant à l'est qu'au sud. Tout ce que les Russes viennent d'essayer d'annexer, tout comme la Crimée, qui a soi-disant été annexée en 2014. Oui, notre drapeau sera partout.
Un drapeau déjà brandi dans la ville de Liman, où la fuite des Russes a fait réagir Ramzan Kadyrov, le président russe de Tchétchénie. Il appelle la Russie à utiliser des armes nucléaires de faible puissance et voudrait l'instauration d'une loi martiale. Des menaces qui n'ont pas empêché le président ukrainien de se montrer offensif.
Tant que vous tous n'aurez pas résolu le problème de celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un. Parce que vous n'admettez pas que cette guerre est une erreur historique pour la Russie.
Volodymyr Zelensky assure également que son armée reprendra d'autres villes annexées dans la semaine à venir.
Et dans le même temps, le gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne ne fuit plus. Il a été endommagé par des explosions sous-marines en début de semaine dans la mer Baltique.
Toujours à l'étranger, les Iraniens crient leur colère 2 semaines après la mort de Mahsa Amiri.
De nouvelles manifestations ont été organisées hier dans plusieurs universités pour dénoncer la répression du mouvement de contestation déclenché après la mort de cette jeune Iranienne arrêtée par la police des mœurs. Au moins 83 personnes sont décédées depuis le début des manifestations. Plusieurs rassemblements ont aussi été organisés dans d'autres pays, notamment en France, à Paris, près de l'ambassade de la République islamique d'Iran. Un reportage de Louise Douillet.
Des centaines de drapeaux iraniens et des pancartes pour dire non à ce régime qu'ils qualifient de misogyne, qu'ils ont fui pour beaucoup, à l'image de Mahan.
Ça fait plus de 40 ans
qu'on nous parle de réforme, de réformateur. Ce régime n'est pas réformable. Il faut une révolution pour pouvoir repartir sur des principes de liberté, de démocratie. Et c'est ce que le peuple demande.
Les opposants au régime dénoncent une dictature religieuse et réclament le droit de s'habiller librement, de s'exprimer, de se déplacer, d'étudier, de travailler. Moujdan lutte au sein du Conseil national de la résistance iranienne et attend beaucoup des Occidentaux.
Ce qui me dépasse, c'est qu'à cause de l'argent, du pétrole, du gaz, les Occidentaux, ils continuent de temps en temps une protestation, mais jamais, jamais passer à l'acte et abandonner ce régime. Il faut fermer les ambassades de l'Iran. Il faut couper les liens avec ces ayatollahs.
Tous gardent un souvenir amer de la poignée de main entre Emmanuel Macron et le président iranien Ebrahim Raisi, échangé il y a quelques jours en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.
Le reportage de Louise Douillet.
Clotilde, on reste en région parisienne où un élu a décidé de démissionner pour une raison bien particulière.
Le socialiste Boris Vénon a laissé sa place effectivement à l'issue d'un conseil municipal cette semaine. Deuxième adjoint au maire des Mureaux dans les Yvelines, il ne supportait plus les injures et menaces reçues ces derniers mois.
Depuis 2 ans, j'ai subi 11 agressions, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reproché d'être qui je suis. Ces épisodes ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit.
Et puis toujours à gauche, justement, la direction d'Europe Écologie Les Verts s'est réunie hier après la parution d'un article de Libération expliquant que Julien Bayou était sous la surveillance de plusieurs militantes féministes du parti depuis des années. Le bureau exécutif d'ELV a réaffirmé sa confiance envers la cellule interne chargée des violences faites aux femmes.
Et on rappelle, Clotilde, que Julien Bayou a démissionné de ses fonctions de secrétaire national du parti après ses accusations de violences psychologiques contre une ex-compagne. Il est 6h06 sur Europe 1. Bienvenue à vous. On aurait dit hier un jour de solde.
Avec des étiquettes à -40, -50% pour vider les stocks, les clients se sont rués dans les boutiques Camailleux hier avant leur fermeture définitive. L'enseigne a été placée en liquidation judiciaire cette semaine. Décision regrettée par Camille, une fidèle de la marque.
Je suis un peu triste parce que moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est vraiment ma marque phare depuis des années. J'y vais depuis des années, j'ai une carte de fidélité, j'aime bien leurs couleurs, j'aimais bien ce qu'ils proposaient. Et quand j'ai su qu'il fermait aujourd'hui, voilà, il n'y avait pas d'hésitation, il fallait que j'y aille. J'ai fait un petit tour, ça avait déjà, la boutique avait été bien dévalisée. Hein, on voyait qu'il y avait eu beaucoup de passages. J'ai acheté que 2 articles, hein, finalement. Et je ne sais pas trop vers qui je vais me tourner après. Je vais peut-être réfléchir un peu à acheter peut-être des vêtements un peu plus chers, mais qui sont fabriqués en France. C'est une réflexion que j'avais déjà et que je vais peut-être avoir encore plus maintenant qu'Amailleux n'existe plus.
Un propos recueilli à Lyon par Tatiana Gezelman. Plus de 500 boutiques ont donc fermé leurs portes. 2600 emplois sont supprimés.
On passe au sport. Clotilde, et Marseille n'a pas duré très longtemps. Plus leader de la Ligue 1 déjà.
Eh oui, le Paris Saint-Germain a retrouvé la tête du classement après une victoire à domicile 2-1 hier soir face à Nice. Grâce notamment à un Lionel Messi transfiguré depuis le début de la saison, Jean-François Pérez.
Léo !
C'est un plaisir qu'on avait un peu oublié la saison dernière et pour tout dire qu'on craignait de ranger au fil du temps dans l'armoire à souvenirs. 28e minute de ce PSG Nice très fermé, coup franc à 20 mètres, Messi s'élance et la magie opère de nouveau. Le ballon s'élève au-dessus du mur, suspend son vol puis redescend brusquement dans le but niçois. Comme téléguidé, Schmeichel, le gardien azuréen, est médusé, le parc jubile. Buteur génial donc, mais aussi auteur de chevauchées fantastiques, comme à sa grande époque barcelonaise. L'Argentin de 35 ans retrouve un niveau de forme étincelant qui fait le bonheur de son entraîneur Christophe Galtier.
J'ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l'entraînement et j'ai un réel plaisir de travailler avec lui. Cette année, il reprend goût à marquer, il arrive à marquer, il est décisif. Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde ? oui.
Homme de la soirée, Messi a inscrit le 60e coup franc direct de sa carrière, le premier à Paris. Si l'on ajoute l'activité permanente de Neymar et l'entrée gagnante de Mbappé en fin de match, le PSG peut aborder avec sérénité les prochaines échéances. La Ligue des Champions à Lisbonne, dès mercredi face à Benfica et un bouillant classique face à l'OM dans 2 semaines au Parc des Princes.
Et puis hier, victoire aussi de Rennes contre Strasbourg, 3-1.
Ouais, c'était le journal de Clotilde Dumay. Merci Clotilde, à tout à l'heure. Valérie Darmon va faire un petit point avec vous. Le ciel est contrasté, nous dites-vous ?
Oui, contrasté, effectivement.
Comme notre voix. Hein.
Voilà, exactement. On est dans un dégradé nord-sud et sur la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien, le Grand Est, c'est une journée bien pluvieuse qui s'annonce. De la Bretagne au centre et au Jura, le ciel est très nuageux, mais les pluies sont plus éparses. Sur la moitié sud, pas de pluie, mais du soleil qui va briller dès ce matin, des Pyrénées au sud-est et encore, c'est plus tardivement, des Charentes à l'Auvergne. Le vent est sensible sur la moitié nord de la France, près de la Manche, sur la Corse et les côtes varoises. Il souffle aux alentours de 70 km/h.
Côté température, qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien, ça se radoucit et c'est tant mieux. Alors, 18 à Toulon à l'heure qu'il est, 17 à Montpellier, à Bourges et Orléans, 16 à Caen, Brest et Clermont-Ferrand, 15 degrés à Paris, 14 à Lyon, 13 à Mulhouse, 12 à Montélimar et des maximales entre 17 et 21 sur la moitié nord, 20 à 25 au sud avec des pointes à 28 en Languedoc-Roussillon.
Merci beaucoup Valérie. Rendez-vous à 6h30 dans un instant, vous le savez, hein, bien fait pour vous. Ce sera d'ici quelques minutes. Et puis à 6h20, la question conso avec Michel Biérot de Lidl France. Il viendra nous parler d'inflation. Mais avant cela, c'est l'heure des pronostics avec Thierry Léger. Grand prix très important. Bonjour Thierry.
Bonjour les Naïcs, c'est un quintet plus exceptionnel qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. La 101e édition du prix de l'Arc de Triomphe, 20% sur la distance classique de 2400 mètres, avec une nouvelle fois des Britanniques mais aussi des Japonais qui débarquent en nombre. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection l'Irlandais Luxembourg, le numéro 20, car il s'agit d'un poulain particulièrement doué, présenté par l'incontournable Aidan O'Brien, qui ne tarit pas d'éloges sur son protégé. On lui opposera Title Holder, le numéro 11, le meilleur galopeur japonais, qui possède à l'évidence les qualités nécessaires pour s'illustrer sur l'hippodrome de Longchamp, quel que soit l'état du terrain. 14, Alpinista, une jument anglaise en acier trempé qui reste sur 7 victoires consécutives, toutes obtenues au plus haut niveau. Et 2, Torquator Tasso, le tenant du titre, facile lauréat de cette même épreuve l'an dernier. Et son entraîneur germanique, Marcel Weiss, m'a assuré que tout avait été fait afin qu'il puisse réaliser le doublé et empocher ainsi la coquette somme de 2 857 000 euros promis au vainqueur de ce prix de l'Arc de Triomphe. Enfin, les numéros 18, Westover, 15, Vadeni, 16, Alakim et 17, Honesto compléteront ma sélection. Mon pronostic, 20, 11, 14, 2, 18, 15, 16 et 17.
Merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et Europe 1 qui vous aide à prendre soin de vous avec les meilleurs moments de l'émission Bien fait pour vous, c'est tous les matins du lundi au vendredi. Mélanie Gomez, Julia Vignalis se demande si face à nos complexes, il vaut mieux faire appel au bistouri ou au psy. Après l'été, on a de nouveaux complexes qui surgissent parfois, la plupart du temps, au niveau de la silhouette. Est-ce que c'est justement parce qu'on s'est vu en maillot de bain pendant quelques semaines et qu'on s'aime pas ? Est-ce que vous repérez, vous, un pic à la rentrée en septembre de gens qui sont particulièrement complexés ?
Alors, après l'été, pendant l'été, on se voit. On se voit un peu plus dans nos pays tempérés. L'hiver, on se cache avec des vêtements et tout ça. Et puis l'été, on peut pas. L'été, on est en maillot de bain, on est à la plage. Et puis, il y a des amis qui vous prennent en photo et tout ça. Et donc, effectivement, c'est souvent à ce moment-là que les gens prennent un peu plus conscience de leur apparence, de leur corps en tout cas, et que ça peut générer quelques petits complexes.
Et vous avez raison, c'est souvent par le biais de photos qu'on s'aperçoit ouais. de...
On se dit, oh là là, mais mes bras, mais c'est pas moi, possible.
Mais parce que là, et là, c'est ce que vous aviez dit, c'est que finalement, les complexes, ils viennent... C'est quelque chose de nous, mais c'est beaucoup à voir avec le rapport aux autres et notre image. Probablement que ces complexes, ils sont nés quand Homo sapiens a inventé le miroir. Mmh. Et puis ça s'est vachement accéléré au XXe siècle quand on a inventé la photo, le cinéma. Et maintenant qu'on a tous dans la poche une petite caméra Ouais. Et qu'on peut se photographier et qu'on peut se voir,
c'est
ça a complètement amplifié notre rapport à notre corps et au complexe.
Et à l'inverse, peut-être qu'en septembre, là, justement, à la rentrée, pour le visage, là, c'est peut-être différent. Au contraire, on se trouve une bonne mine à la rentrée.
On annule,
il y a moins de demandes sur le visage à la rentrée.
Effectivement,
Des opérations annulées, je crois.
Oui, alors moi, je suis très spécialiste dans le visage, je ne fais que ça. Et souvent, je vois des gens au printemps qui ont pris rendez-vous pour une chirurgie parce qu'ils trouvent qu'ils ont l'air fatigués, qu'ils ont des poches sous les yeux, qu'ils ont le cou qui se relâche et que ça les gêne. Et puis, après l'été, ils sont bronzés, ils sont reposés, ils ont fait attention à eux, ils ont mieux dormi. Mmh. Et puis, ils se disent, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Et ils décident de reporter leur opération.
Alors, Caline, est-ce qu'on est d'accord? On a tous des complexes? C'est normal d'en avoir ou pas?
Oui, c'est hyper normal, au fait, d'avoir des complexes. Ça même fait partie de l'humanité. Nous sommes, par définition, tous imparfaits. Et donc, condamnés à avoir des complexes. Et ça fait partie de la vie, quoi. C'est normal d'avoir des complexes.
Mais chez les gens très beaux, voilà. D'ailleurs. Hein. Mais à quel moment ça dérape? Alors, de quand ça devient problématique?
Justement, avoir des complexes, c'est ne pas aimer certaines parties de son corps qu'on trouve négatives pour différentes raisons. J'ai envie de dire, on passe du côté du mauvais côté du miroir quand ça devient une obsession. Mmh. Et que ça vraiment occupe une place hyper importante dans notre vie. Et ça nous empêche de faire des choses.
Et d'avancer, de travailler, d'avancer, de sortir.
De se juger négativement, de penser qu'on est inférieur, qu'on ne mérite pas ni l'amour, ni
ça
le travail.
Ça peut entamer la confiance qu'on a en soi, les complexes.
Clairement.
Et ça, c'est la dysmorphophobie. On parle de dysmorphophobie dans quel cas concrètement?
Exactement. La dysmorphophobie, si vous voulez, c'est une fixation sur un défaut ou plusieurs défauts physiques que la personne a repérés chez elle et dont elle a honte.
Alors Caline, personne n'a envie d'être moche, hein, ça c'est sûr, mais
c'est
pour ces personnes, elles souffrent vraiment très très fort, on l'a vu avec vous. Vous nous disiez parfois que ça peut même les empêcher de faire correctement leur travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver?
Alors, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous envie d'être beau, n'est-ce pas? Le culte de la beauté existe depuis toujours, c'est pas un phénomène récent, on voit bien l'obsession des Grecs, c'était vraiment un moyen privilégié pour accéder au divin, donc ça a toujours été là. Et on peut comprendre cette dimension physique qui est présente, le corps, c'est une partie fondamentale de notre identité. C'est ce qui est en premier quand on est, il n'y a pas d'esprit sans corps, quoi. Donc il faut savoir que ça fait partie principalement de l'identité. Maintenant, quand l'identité profonde est touchée et que vous avez un rapport à votre corps qui est altéré, où vous ne le considérez pas assez bien, où vous n'êtes pas assez bien, vous êtes diminué dans vos fonctions. Que ce soit vos fonctions professionnelles, parce que ça peut toucher le travail, mais ça peut aussi être vos fonctions en tant qu'être humain, capable d'être aimé, parce que derrière la quête de la beauté et de la perfection, que se cache-t-il en réalité?
La quête de l'amour.
On veut tous être aimé, n'est-ce pas? Et être aimé, ou être le plus aimé parfois, ou se sentir supérieur pour camoufler ou compenser d'autres dimensions d'infériorité interne à nous.
Alors à l'opposé, il y a des gens qui sont simplement très complexés, mais pas forcément dysmorphophobes. Et la chirurgie, là pour le coup, peut littéralement leur changer la vie. Je crois que vous avez des exemples en tête, docteur Marchak, notamment un garçon de 15 ans qui avait les oreilles décollées, je crois, hein, c'est ça?
Oui, on en parlait tout à l'heure.
Et là, c'est des transformations très positives,
oui,
pour
alors,
le coup.
La chirurgie plastique, ça existe depuis des décennies. Et on sait, tous les chirurgiens, qu'on a des histoires merveilleuses de gens dont l'estime de soi est améliorée. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, j'ai revu la semaine dernière un garçon de 15 ans que j'avais opéré des oreilles décollées il y a quelques mois. Et avant, il était très introverti. Vraiment, sa maman disait qu'il avait du mal à l'école et qu'il avait du mal à s'ouvrir. Et puis, je le revois 6 mois plus tard. Transformation, il est beau, il est épanoui. À l'école, sa mère dit qu'il a vraiment complètement changé ses relations. Donc ça, c'est des histoires qu'on rencontre souvent.
Il était très complexé, vous l'avez sauvé, quoi.
Voilà.
C'est un peu
donc
ça. Hein,
et c'est un garçon qui est pas de problème, qui est sain. Alors il est jeune, il a un moment de sa vie qui est assez difficile, qui est l'adolescence, une phase où notre image est assez fluctuante. Mmh. Et donc c'est une période qui est voilà,
Mais dites-moi, docteur, moi qui suis par exemple maman d'un adolescent, vous croyez pas que nous, en tant que parents, on a aussi intérêt à les détourner un peu de cette perfection physique? Je vois les réseaux sociaux, ils sont toujours en train de se comparer.
Puis il y a
toujours
des filtres, quoi. Oui, c'est pas la réalité. Ouais. En plus,
qu'est-ce qu'on fait nous, les parents d'ados?
C'est très compliqué. C'est une période. C'est une période. Donc, comme je disais, l'adolescence est une période difficile parce que notre image est fluctuante. On a tous un espèce d'avatar mental, une idée que l'on a de notre corps quand on est adulte. Elle se fixe généralement dans la vingtaine, trentaine. Mais l'adolescent, lui, il n'arrête pas de changer. Tous les 6 mois, tous les ans, il a les pieds qui grandissent, les épaules qui grandissent. Enfin bref, ça change. Donc, ça ne s'est pas encore fixé. Opérer un adolescent, c'est plus difficile. Moi, le conseil que je donne aux parents, c'est d'écouter. Il ne faut pas nier. Mm-hmm. Ce n'est pas une bonne attitude de dire « mais non, t'es très bien, on ne fait rien ».
Je t'ai fait parfait,
ça.
De toute façon.
Il ne faut pas nier. Il faut bien l'écouter. Il faut éventuellement faire une première consultation avec un chirurgien. Et globalement, il faut quand même essayer de temporiser. de gagner du temps. Et puis, si on voit que vraiment la plainte est très, très importante, il ne faut pas hésiter à ce qu'il voit un psychologue.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus un truc de femme quand même. Mais non, alors, vous dites qu'il y a des hommes,
autant d'hommes dans les études, c'est autant d'hommes que de femmes. Maintenant, parfois, les zones peuvent être différentes. Ce n'est pas un problème, justement, de féminité ou d'identité, puisqu'on a longtemps attribué la beauté à la femme. D'ailleurs, aujourd'hui, les hommes sont un peu plus préoccupés par leurs apparences qu'ils ne l'ont été avant. Donc, c'est beaucoup plus mixte. Mais de manière générale, la dysmorphophobie touche les deux sexes.
Bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à midi sur Europe 1 et à retrouver évidemment sur europe1.fr.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
6h18, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Europe 1. L'Info Express, Clotilde Dumais.
Le bilan s'alourdit encore en Floride. 44 personnes sont mortes après le passage de l'ouragan Ian. Le président américain se rendra sur place la semaine prochaine. Joe Biden et sa femme qui iront aussi à Porto Rico pour constater les dégâts causés cette fois par l'ouragan Fiona. En Indonésie, c'est un mouvement de foule qui a provoqué la mort d'au moins 127 personnes. Des supporters ont envahi un terrain de football après la défaite de leur équipe face à un club rival. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux policiers. Plusieurs personnes ont été écrasées et sont mortes asphyxiées, la plupart ayant succombé à l'hôpital. Le président indonésien ordonne ce matin une enquête sur la sécurité des matchs de foot. Au Brésil, dernier meeting pour Jair Bolsonaro et Lula. Le président sortant et l'ancien chef d'État doivent être départagés par les 156 millions de Brésiliens appelés aux urnes. Lula sort pour l'instant favori des sondages et espère l'emporter dès le premier tour. Une seconde main courante déposée par l'épouse d'Adrien Quatennens. Le signalement concerne cette fois des textos envoyés par le député du Nord qui s'est mis en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise après avoir reconnu des violences sur sa femme. Il a été entendu lundi au commissariat de Lille dans le cadre d'une enquête pour violence conjugale. Et puis en rugby, La Rochelle prend provisoirement la tête du top 14 après une victoire face au Racing 92. Les Girondins se donnent un peu d'air en engrangeant leur deuxième victoire de la saison contre le Stade Français. Tout ça avant le choc du week-end entre Montpellier et Toulouse ce soir.
Merci Clotilde, à tout à l'heure. Dans un instant, c'est Michel Biérot de Little France qui vient nous parler conso et inflation. Est-ce que les marques exagèrent? Je lui poserai la question, à tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier. Il n'y aura plus de tout le temps dans les rayons. La guerre en Ukraine, la sécheresse, les problèmes de transport et désormais le coût de l'énergie. L'inflation met la grande distribution face à l'un de ses plus grands défis. Bonjour Michel Biérot.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif achat et marketing de Lidl France. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler des consommateurs, j'aimerais qu'on parle de vous. J'ai lu il y a quelques semaines que vous pourriez ouvrir plus tard, fermer plus tôt pour réduire vos propres coûts. Est-ce que vous avez pris une décision ?
Alors non, nous n'avons pas pris de décision. C'est des sujets qui ont été évoqués lors des différentes réunions que nous avons eues avec le ministère, les différents ministères d'ailleurs. Et effectivement, c'est une possibilité qui pourrait être envisagée dans les prochains mois. Ce sera bien évidemment en concertation avec l'ensemble des distributeurs. Mais oui, s'il faut fermer un peu plus tôt le soir, ouvrir un peu plus tard le matin, surtout en période d'hiver où le jour se lève plus tard et il se couche plus tôt, bien évidemment, on participera à cet effort. Alors chez Lidl, on a déjà mis pas mal de choses en place, notamment les portes sur tous les meubles frais, oui, qui nous font une économie énorme en termes de dépenses énergétiques. Tous les magasins sont équipés de photovoltaïques. Mm-hmm. On est en train de mettre en place des lumières intelligentes avec des capteurs intelligents, c'est-à-dire que dans des zones où les clients ne sont pas, la lumière va réduire de 40-50%. Et dès qu'un client avance vers cette zone, les luminaires vont se mettre en place, 100% des luminaires sont en LED, etc., etc. Donc, bien évidemment, c'est énorme pour nous en termes de dépenses, tout ce qui est électricité. Il faut savoir qu'un magasin Lidl aujourd'hui, c'est environ 5000 euros par mois. L'année prochaine, on sera probablement plutôt à 10-15 000 euros par mois. Ouais. Donc oui, il faut qu'on travaille dans ce sens-là pour économiser au maximum.
Alors vous prenez les devants évidemment. On vous a invité également ce matin pour parler bien sûr de l'inflation. Votre homologue Didier Duhaupin qui dirige les mousquetaires a dénoncé les demandes de certaines marques, je pense à Danone, je pense à Mars, qui imposent des hausses de prix abusives sur certains produits et donc lui a décidé de ne plus les mettre en rayon. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors écoutez, moi je suis assez, alors ça dépend, il faut faire très attention, mais oui, il y a des gens qui profitent de cette crise, sans aucun doute, et je l'ai dit et je le répète. Maintenant, moi quand Quand on me propose des hausses de tarifs, il y en a tous les jours, hein, on négocie tout au long de l'année, il me faut de la transparence.
Vous, chez Lidl, Michel Berriot, quelle est votre politique justement pour mettre la pression sur les marques ?
Écoutez, on n'est pas là pour mettre de la pression sur les marques. Encore une fois, on comprend les hausses qu'on nous demande à partir du moment qu'elles sont justifiées et qu'on nous montre une certaine transparence. Moi, il me faut de la transparence dans les échanges. On ne peut pas travailler aujourd'hui dans cette situation et cette crise inflationniste si on vient vers nous en nous demandant 15, 20, 30% de hausse sans nous donner aucune explication. À partir du moment qu'on m'explique, qu'on me dit les choses, qu'on me démontre les choses, moi, j'ai pas de problème à accepter les hausses.
Alors, l'inflation devrait atteindre les 12% hein, pour tout ce qui concerne les produits alimentaires avant la fin de l'année. Ça, c'est l'INSEE qui nous le dit. Vous êtes inquiet pour les prochains mois, là, ce qui nous attend ?
Bien évidemment, quand j'entends 12%, oui, je suis inquiet. Aujourd'hui, on est plutôt à 6,5-7 chez Lidl, dans nos rayons. Donc, on essaye de contenir cette inflation. Hein. On fait très attention. Alors, ça nous coûte en marge nette, bien évidemment, pour l'enseigne. Mais quand on prend des hausses de 20% sur des pâtes ou sur de l'huile, on ne va mettre sur le prix de vente consommateur que 15 ou 17, pour essayer de contenir au maximum. Mais à un moment donné, effectivement, à force de passer des hausses à nos fournisseurs, oui, on va encore augmenter les prix. Moi, je pense que 12%, c'est exagéré, je l'espère, je croise les doigts, mais plutôt je tablerai sur un 10% d'ici fin d'année. Mais il faut faire attention et il faut essayer d'aider au maximum nos consommateurs et de préserver leur pouvoir d'achat.
D'autant qu'on sera au moment des fêtes et que c'est pas forcément là qu'on a envie de se serrer la ceinture, évidemment, au contraire.
C'est là qu'on a envie, vous avez raison, de se faire plaisir, d'autant plus qu'il y aura très peu de foie gras cette année pour se faire plaisir. Il y a des produits qui vont manquer, mais pas à cause de la crise ukrainienne, pas à cause de l'inflation, mais à cause de la grippe aviaire qui a touché très fortement le pays. Donc on va tout faire. Nous, notre travail en tant que distributeur, c'est de préserver le pouvoir d'achat en faisant attention à ne pas passer toutes les hausses aux consommateurs. Ouais. Mais encore une fois, oui, l'inflation, on l'a subie comme tout le monde et forcément, les clients, ils devront participer.
Alors, dernière chose, est-ce que vous attendez quelque chose du gouvernement, amortir par exemple les coûts de l'énergie pour l'agroalimentaire pour que ça se répercute moins ? Ce serait une solution ?
Je pense effectivement que le gouvernement doit... quand je vois les discussions que nous avons avec les fournisseurs d'énergie, c'est lunaire. C'est vraiment lunaire, quoi. Quand on nous annonce x10 pour de l'électricité, c'est juste pas possible. Je pense qu'effectivement, l'État, le gouvernement, doit prendre des mesures pour limiter... parce que quand on parle d'entreprises comme la nôtre, quand on vous dit qu'on va multiplier par 3 les coûts de l'énergie, l'électricité chez Lidl, par an, c'est à peu près 80 millions. Mmh. On va multiplier par 3 ce coût-là. On va l'absorber. Mais quand on parle de PME, une PME qui se prend x3 sur le coût de l'électricité, elle signe son dépôt de bilan.
Oui.
Ils n'y arriveront pas. Donc oui, je pense qu'effectivement, le gouvernement doit prendre des mesures pour limiter ces hausses, surtout sur l'énergie, pour que les PME puissent survivre.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Biérot. Vous êtes, on le rappelle, un directeur exécutif achat et marketing de Lidl France. Bonne journée à vous, merci.
Merci à vous.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Il est 6h30, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Bon courage si jamais vous allez travailler. L'information de ce dimanche matin, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Délinquance, trafic de stupéfiants, le sentiment d'insécurité grandit en France. À Nantes, habitants et commerçants ont défilé dans les rues pour dire stop aux muraux. Un élu a décidé de démissionner après 11 agressions en 2 ans.
J'ai toujours la même énergie, promet Xavier Bertrand qui a lancé hier son propre mouvement, Nous France, une plateforme d'idées pour la droite est sans doute un tremplin pour la présidentielle 2027.
Et puis le retour du Grand Prix de Singapour après 2 ans d'absence liée au Covid, c'est le Français Charles Leclerc qui s'élancera en tête.
Dans la prochaine demi-heure, Philippe Legrand s'entretient ce matin avec la chanteuse Natacha Saint-Pierre. Et puis on ira découvrir un village troglodyte de la Madeleine dans le Périgord avant de déguster une très bonne tarte aux noix concoctée par Olivier Pouls. Avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Gris et pluvieux sur les deux tiers nord avec des pluies soutenues sur les Hauts-de-France, du soleil sur un bon tiers sud, entre Pays Basque, Cévennes, Vallée du Rhône, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, et entre les deux, plus ou moins nuageux, mais sec.
Et vous nous donnez tout le détail juste après le journal. Europe 1.
Nantes est-elle devenue invivable? La mairie de la ville, Johanna Roland, doit rencontrer Gérald Darmanin mardi pour évoquer l'insécurité grandissante dans la cité des Ducs.
Mais Johanna, bouge-toi, c'était le mot d'ordre des quelques 900 personnes qui ont défilé hier dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol. Rien qu'en une semaine, Nantes a fait la une avec un viol, une fusillade et un corps retrouvé en pleine rue. Un reportage de Charles Guyard.
Ce bruit plutôt insupportable fait 90 décibels, soit le raffut d'un train en gare. Ici, il est émis par un simple porte-clés censé éloigner un éventuel agresseur. Olivia Delezignier est restauratrice à Nantes et elle en a acheté à tous ses employés.
Ça peut attirer l'attention.
Attirer l'attention, voilà l'objet d'une manifestation qui a rassemblé près d'un millier de personnes hier dans le centre-ville.
La sécurité !
Manifestation pour dénoncer l'insécurité.
Dans la ligne de bus, il y a un homme qui s'est assis derrière moi, il a commencé à me tirer les cheveux et il a passé sa main sous ma chemise en essayant de décrocher mon soutien-gorge.
Vous êtes sa main quand vous entendez ça, ça vous interpelle?
Bah oui, bien sûr, moi je suis jamais tranquille, hein. C'est partout où elle va, c'est simple, je me lève à 3h du matin, je vais la chercher.
Le témoignage édifiant de la jeune Victoria et sa mère Stéphanie est loin d'être un cas isolé. Pour beaucoup, ici, sortir en ville aujourd'hui fait peur et pourtant cela n'a pas toujours été le cas. Pascal Bolo, adjoint à la sécurité.
Le problème, c'est que nous n'y étions pas habitués. Nantes était protégée ces dernières années de ce qui se passait dans toutes les grandes métropoles. Mais l'industrialisation du trafic de drogue nous a rattrapés. Et avec cette industrialisation du trafic de drogue arrivent les violences.
Et mardi, la maire Johanna Roland va demander au ministre de l'Intérieur le renfort d'une compagnie permanente de CRS. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et Émilie, il n'y a pas qu'à Nantes que l'insécurité explose. Après 11 agressions en 2 ans, un élu des Mureaux dans les Yvelines a décidé de démissionner.
11 agressions, des violences verbales, physiques, allant jusqu'aux menaces de mort, des insultes homophobes et racistes aussi. Diéné Nabadiop, maire adjointe aux Mureaux, était hier sur Europe 1. Elle dit comprendre la décision de son collègue Boris Venon.
Dans toutes les villes de France, aujourd'hui, on est face à de l'insécurité. On sait très bien qu'il y a nombre de victimes qui sont victimes de discrimination, de racisme, aussi lorsqu'on est d'origine européenne, qu'il y a des personnes victimes de violences. Ce n'est pas propre aux Mureaux et cela doit nous interroger collectivement parce que c'est notre République à laquelle on s'attaque et c'est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit là d'un des représentants de notre République puisqu'il s'agit d'un élu. Je respecte profondément le choix qui a été celui de Boris Venon. Évidemment que j'aurais aimé qu'il n'ait pas à se poser la question. J'aurais aimé qu'il puisse continuer son parcours avec nous et qu'il puisse continuer de profiter de sa vie paisiblement aux Mureaux.
Diéné Nabadiop, adjointe aux Mureaux, au micro Europe 1 de Jacques Serret.
Après son échec à la primaire des Républicains, le voici de retour sur le devant de la scène. Xavier Bertrand a lancé hier son nouveau mouvement Nous France.
Le président des Hauts-de-France veut en faire une plateforme d'idées pour la droite en parallèle des Républicains. Donc Alexandre Chauveau, Xavier Bertrand n'a semble-t-il pas renoncé à toute ambition.
Oui, créé officiellement pour, je cite, « préparer l'avenir », Nous France se veut un collectif capable de parler à tous.
Certains me disent « mais c'est un parti politique de plus ». Un parti politique parle à ses adhérents, c'est son essence. Nous France va parler à l'ensemble des Français.
Et de thèmes chers à Xavier Bertrand.
Alors si on vous demande, alors Bertrand se bat pour quoi ? Bah principalement pour 2 choses, l'ordre et le travail.
Ajoutez à cela la République des territoires et vous obtiendrez le triptyque déjà longuement défendu pendant la primaire LR l'an dernier. Hier, le président des Hauts-de-France a tenu un discours programmatique de plus d'1 heure qui laisse peu de place au doute sur son ambition nationale.
Oui, j'ai toujours la même énergie. J'ai toujours envie de porter mes idées. Parce que j'ai le sentiment que si ça n'est pas au sein de Nous France, que l'on parle du travail comme nous en parlons, que nous faisons des classes moyennes une priorité d'action, que l'on croit et que l'on porte l'idée de la République des territoires, ça sera nulle part ailleurs. Alors vous êtes ici plus d'un millier parce que vous avez la même conviction.
Une démarche en dehors des partis qui fait écho à celle de Laurent Wauquiez, lui officiellement candidat à la présidentielle dans 5 ans.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Et puis les Brésiliens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président.
Selon les derniers sondages, Lula est le grand favori devant Bolsonaro, le président sortant. L'ancien chef d'État pourrait même être élu dès le premier tour.
À 6h35 sur Europe 1, on parle de sport. Le Grand Prix de Formule 1 est de retour à Singapour.
17e manche du championnat du monde et c'est Charles Leclerc qui s'élancera cet après-midi à la première place devant le pilote Red Bull Sergio Pérez, Charles Leclerc, qui a réussi une séance de qualification incroyable hier, Christophe Philcock.
Exactement, c'est bien le Monégasque qui partira en tête pour la 9e fois de la saison et pourtant le résultat aurait pu être tout autre sans une grosse erreur de l'écurie Red Bull. Alors que Max Verstappen allait s'offrir la pole, son écurie lui a ordonné de rentrer au stand pour un manque d'essence dans sa voiture, une erreur qui a fait sortir de ses gonds le pilote Red Bull avec, vous allez l'entendre, un langage fleuri. Voilà, hein, pas besoin de traduction, le Néerlandais partira à la 8e place. En revanche, particulièrement à l'aise sur cette piste, Lewis Hamilton et Fernando Alonso se classent respectivement 3e et 5e. Carlos Sainz s'intercale à la 4e place. Fortune diverse hein, pour nos Français puisque Esteban Ocon partira à la 18e position. Mais Pierre Gasly lui est parvenu à signer le 7e temps. Le Français satisfait du résultat au micro de Canal+.
Ah, franchement, c'était cool. C'était pas simple à l'intérieur de la voiture. Mais non, vraiment très satisfait de cette qualif. C'était encore des conditions un peu changeantes et on sait que dans ces conditions-là, il y a toujours quelque chose à faire et on a réussi à le faire.
Et puis à noter que les qualifications ont pris fin de manière précoce pour George Russell. Le pilote Mercedes s'élancera à une inhabituelle 11e position.
Et Christopher Filhoc pour Europe 1. Le départ du Grand Prix est prévu cet après-midi à 14h.
Merci Émilie Dez. 6h37, vous pouvez venir nous rejoindre sur notre page Facebook. On vous attend comme Eric qui nous dit qu'il fait déjà 14 degrés à Lille. Et c'est vrai, Valérie Darmon, que la douceur revient.
Et oui, les minimales qui sont comprises entre 11 et 16. Donc on est pile poil dedans à Lille avec 14. Elles sont localement plus fraîches sur l'extrême sud-ouest ou sur l'Auvergne avec 7 à 10 degrés, mais atteignent jusqu'à 19 degrés sur le Var et la Corse. Et puis les maximales qui sont en hausse aussi avec 17 à 25 du nord au sud et jusqu'à 26 à 28 près de la Méditerranée.
Et côté ciel, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, sur les côtes normandes, les Hauts-de-France, le nord du bassin parisien, le Grand Est, là, le temps reste pluvieux, sous un ciel couvert toute la journée. Et les précipitations, qui circulent d'ouest en est, sont faibles, façon crachin, mais désagréables. De la Bretagne à la Franche-Comté, les nuages sont également assez nombreux, donnent quelques pluies plus éparses. Sur l'arc méditerranéen, les Pyrénées, le Piémont, le soleil domine toute la journée. Et au sud de la Loire, ce matin, les grisailles et les brouillards matinaux sont assez fréquents, notamment sur le sud-ouest. Ils vont se dissiper au fil de la matinée. À la mi-journée, vous serez au soleil. Le vent se renforce en Bretagne jusqu'à 60 km/h près des côtes et les rafales atteignent 80 km/h sur la côte varoise et la Corse. Voilà, j'ai été assez complète.
Complètement complète. Merci Valérie Darmon. On vous retrouve à 7h et dans un instant, à 6h40 à peu près, c'est Philippe Legrand qui recevra ce matin Natacha Saint-Pierre. À tout de suite.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Il est 7h20 sur Europe 1. Bonjour à tous et bienvenue si vous êtes au petit-déj.
Tout de suite, l'entretien de Philippe Legrand avec Continent Insolite pour des souvenirs inoubliables.
Une date, une histoire avec ce matin Natacha Saint-Pierre, la chanteuse canadienne au double disque d'or qui est portée par la foi après avoir chanté Thérèse de Lisieux. Voilà qu'elle revisite aujourd'hui la vie de Jeanne d'Arc à travers un livre et un album. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Lénaïque. Bonjour à tous. Direction Paris. Au pied de Notre-Dame en 2019. Bonjour Natacha Saint-Pierre.
Bonjour Philippe.
Chanteuse passionnée au cœur généreux, vous montez sur scène portée par une voix cristalline dès l'âge de 12 ans. Très vite ensuite, les portes des plus grandes salles de spectacle dans le monde s'ouvrent pour vous. Votre talent précoce vous propulse du Canada, votre pays, vers tous les continents. Natacha Saint-Pierre, ce que vous avez appris dans le nouveau Brunswick, là où vous avez grandi, continue de vous inspirer. La vie au grand air, l'harmonie avec la nature, la curiosité d'apprendre, de savoir, de lire les textes sacrés. Vos tubes s'intitulent entre autres « Je n'ai que mon âme, tu trouveras où nos rendez-vous », mais aussi « Jeanne », le titre de votre nouvel album. Vous êtes de tous les combats où la solidarité s'impose avec par exemple les Restos du Cœur, mais aussi Petit Cœur de Beurre. Vous êtes la marraine de Petit Cœur de Beurre. Ce matin, Natacha Saint-Pierre, vous avez choisi de revenir sur le 15 avril 2019. Notre-Dame de Paris est en feu. Les premiers mots de l'astronaute français Jean-Loup Chrétien au micro d'Europe 1.
Le choc a été violent. Notre-Dame, c'était un signe de la vie que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est assez époustouflant, c'est que l'orgue ait échappé aux flammes. Ce choc a été très, très, très fort.
Ce choc a été très, très fort. C'est ce que nous dit Jean-Loup Chrétien, l'astronaute français, très touché lui aussi, comme des millions de personnes. Le monde entier était mobilisé devant son écran de télévision. Pourquoi avoir choisi, Natacha Saint-Pierre, cette date-là en particulier ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui me lient à Notre-Dame de Paris, en fait. La première comédie musicale que j'ai faite, celle qui m'a fait apparaître sur les planches, c'était Notre-Dame de Paris. C'est cette histoire. Quand je suis arrivée en France, une des premières choses que j'ai visitées, évidemment, c'était Notre-Dame de Paris. Et je me souviens, le soir des incendies, je regardais la télévision et il y avait un homme qui était interviewé. C'était un Anglais. Et il parlait de Notre-Dame en l'appelant « This Lady ». Et je me suis dit, c'est vrai que Notre-Dame de Paris, c'est un peu comme une femme, c'est un peu comme une maman. C'est
un personnage vivant au fond,
à travers les siècles. Elle existe. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire une chanson, d'ailleurs, qui s'appelle « Madame Notre-Dame », où, pour moi, en fait, elle est comme une mère qui a accueilli les prières, qui a accueilli les confidences, qui a accueilli les tristesses de beaucoup de gens. Il y a tout ça qui résonne encore.
Et les amours.
Les amours. Et on a l'impression qu'elle fait partie de nos vies. Alors, moi, je suis canadienne. On pourrait me dire, t'as pas grandi à Paris, t'es pas une Parisienne, t'as pas tout ça. Et malgré tout, j'avais l'impression de perdre un membre de ma famille.
Alors, un membre de votre famille, c'est fort ce que vous nous dites là. On comprend bien, évidemment, votre lien avec Notre-Dame, la comédie musicale. Mais revenons sur l'événement. Ouais. Vous étiez où à ce moment-là?
Alors, j'étais en tournée à ce moment-là. Et c'est quand je suis sortie de scène que j'ai regardé les infos et que je voyais les flammes. Et il y a une partie de nous qui ne veut pas croire, en fait, au truc. On se dit, bon, la flèche, elle ne va pas tomber, elle ne va pas tomber, elle ne va pas tomber, puis pouf, elle tombe. Et on se dit, bon, les dommages ne seront pas si grands que ça. Les pompiers de Paris, quand même, ils sont doués. Et finalement, quand on voit le travail de reconstruction, et après, il y a toute la partie magique, les choses qui n'ont pas brûlé, la croix, l'orgue. Après, on peut avoir notre esprit scientifique de il y a certaines choses qui fondent à un certain degré et d'autres à une autre température. Évidemment, il y a tout ça, il y a tout l'aspect scientifique. Mais il y a aussi une part de magie dans tout ça et de sacré. Il y a une part de ces choses non palpables qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut que ressentir. Et pour moi, ce qu'on a ressenti devant les incendies de Notre-Dame de Paris, c'est du non palpable.
Ce moment-là vous a inspiré, au fond, la suite, c'est-à-dire ce qui arrive maintenant, ce nouvel album dans lequel, au fond, on revient au sacré.
Ça m'a permis de débloquer la timidité que j'avais face à mon écriture. J'osais pas écrire de chansons. Et le pianiste qui m'accompagne, Vincent Bidal, me disait, mais si tu veux continuer de progresser, si tu veux ne pas avoir cette impression de stagner, il faut que tu passes à une autre étape dans ta carrière. Et l'autre étape, elle ne peut passer que par ça, par l'écriture, par la composition. Et j'ai tellement été touchée par cet événement que je n'avais pas envie que ce soit un auteur qui le raconte à ma place, aussi bien peuvent-ils le faire, raconter mes émotions depuis le début de ma carrière, les auteurs qui m'entourent. Là, je voulais que ce soit moi qui le fasse. Et le pianiste avec qui je travaille, Vincent Bidal, a accepté de mettre mon texte en musique, de m'aiguiller un petit peu, de m'aider pour en faire une chanson qui s'appelle « Madame Notre-Dame » qui a été fait en spectacle dans la dernière tournée. Et je pense que de là, j'ai débloqué ce truc qui m'empêchait d'écrire, de composer et qui nous amène jusqu'à Jeanne où, bien que j'ai été entourée encore une fois de mes amis, j'ai pris la plume et j'ai écrit et je me suis assise à mon piano et j'ai composé.
C'est Jeanne maintenant qui arrive avec vous sur scène, vous faites renaître à travers cet album. Il y a eu Thérèse, Vivre d'amour, et là au fond on reste dans l'amour, mais la foi qui vous porte aussi dans un combat, celui de Jeanne que vous racontez dans un album. Au fond, comment vous est venue cette nouvelle étape dans ce parcours-là qui est le vôtre, vous qui chantez dans les églises, dans les cathédrales, ce soir je rappelle que vous serez du côté d'Alençon, dans la basilique, justement, Notre-Dame.
Exactement. Eh ben, en fait, vous allez le voir, le parcours, il est assez logique. Moi, qui est passionnée par les écrits de Thérèse de Lisieux, j'ai trouvé une pièce de théâtre qu'elle a écrite en deux temps, dans laquelle elle raconte l'histoire de Jeanne d'Arc. Et elle raconte Jeanne d'Arc en projetant en tout cas sa propre personnalité sur Jeanne d'Arc. Et c'est elle qui va jouer le rôle de Jeanne d'Arc dans cette pièce de théâtre qu'elle écrit, qui sera jouée au Carmel devant les autres carmélites. Je trouvais assez intéressant de raconter une histoire en album, en spectacle, mais pas si évident que ça. Je voulais avoir un peu de Thérèse dedans, et donc j'ai divisé sa pièce de théâtre en 14 morceaux. Chaque partie de la pièce de théâtre devait faire une chanson, mais une chanson qui allait raconter à elle seule une histoire, et qui, mis dans le groupe de chansons, allait être un bout d'une histoire plus grande. Gros défi, mais je pense qu'on a réussi le pari.
Natacha Saint-Pierre, votre foi, vous la vivez à travers Jeanne, ce nouvel album, en chantant dans ces lieux sacrés, ces lieux de recueillement, ou vous la vivez au fond dans une vie privée qui reste votre vie à vous?
Je pense que la foi, la spiritualité, ça se vit constamment. En fait, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Je l'enseigne notamment avec le yoga. On ne fait pas du yoga que sur son tapis de yoga. On fait, c'est un art de vivre. Et pour moi, avoir une spiritualité, c'est un art de vivre aussi.
Natacha Saint-Pierre, votre album s'intitule Jeanne. On va se quitter justement avec cette chanson Jeanne. Ça commence comment ?
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire.
On vous écoute. Merci.
Avec plaisir.
Natacha Saint-Pierre.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Et à 7h10, on fait le rappel des titres de toute l'actualité avec Émilie Dèze.
Premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Plus de 156 millions de Brésiliens sont convoqués aux urnes. Lula est toujours le grand favori face au président sortant Jair Bolsonaro. Il pourrait même remporter l'élection dès ce soir, selon les derniers sondages. L'armée ukrainienne est entrée dans Liman, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Liman, située dans la région de Donetsk, nouvellement annexée par la Russie. De nouveaux drapeaux ukrainiens flotteront sur le Donbass, prévient Volodymyr Zelensky. L'ouragan Ian a causé la mort de 44 personnes en Floride, dans le sud des États-Unis. C'est ce qu'indique le dernier bilan communiqué hier soir par les autorités. Joe Biden se rendra à Porto Rico demain et en Floride mercredi pour constater les dégâts causés par le passage des ouragans Fiona et Ian. Virginie Calmels renonce à briguer la tête des Républicains. Elle l'annonce ce matin dans le journal du dimanche. La numéro 2 du parti dénonce un scrutin biaisé. Virginie Calmels, dont la candidature avait d'abord été invalidée, a demandé le report du scrutin pour avoir le temps de faire campagne. Demande refusée. Au moins 129 personnes sont mortes hier soir en Indonésie après un mouvement de foule pendant un match de foot. Le président du pays demande l'ouverture d'une enquête. Et puis un mot de Ligue 1. Kylian Mbappé a offert la victoire au PSG hier soir, vainqueur 2-1 face à Nice. Paris qui reprend son fauteuil de leader. À suivre aujourd'hui, Monaco-Nantes et Lens-Lyon.
Merci Émilie. Dans une minute, on part en balade. Direction avec Vanessa Zah, les troglodytes du Périgord noir. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
Olivier Pouls, Vanessa Zah avec moi, comme tous les week-ends, pour une balade dans le Périgord aujourd'hui.
Bonjour,
Vanessa.
Bonjour. Bonjour. Oui, on va du côté de chez Nicolas Charpentier, qui est notre réalisateur. Je vous emmène dans le Périgord noir, mais alors pas celui des châteaux. Là, je vous emmène dans la vallée de la Vézère, découvrir un site vraiment exceptionnel. On va passer notre week-end au cœur d'une falaise de calcaire, parce qu'il y a beaucoup de calcaire dans ce coin-là. Mmh. On est à Tursac, on est au bord de la Vézère. On est dans un village troglodyte.
Ah,
c'est
génial.
L'un des mieux conservés en fait, de la vallée. C'est le village de la Madeleine. C'est un grand site UNESCO. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a 17 000 ans, les chasseurs-cueilleurs semi-nomades se sont installés au pied de la falaise. Et c'est d'ailleurs le gisement préhistorique trouvé sur le site qui a donné nom à cette période qu'on appelle le Magdalénien. Voilà.
D'accord.
Et alors, après, on saute dans le Moyen-Âge. Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e, un village troglodyte qui va s'installer, vivre donc à mi-hauteur de cette falaise, mais surtout en fait s'adapter, comme le rappelle Louis Hamelin, qui est à la tête du site.
Ils ont fait corps avec ce calcaire. Alors on a des maisons avec des systèmes d'aération pour faire partir la fumée. Les maisons, elles sont découpées sur deux étages avec souvent les animaux qu'on mettait en bas parce que on récupérait la chaleur qui montait des animaux. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes à aborder aujourd'hui puisqu'on nous il faut habiter différemment, il faut construire différemment. Et en fait, ces gens-là étaient en avance sur leur temps, quoi.
Ça paraît tout bête aujourd'hui, ouais. Mais en fait, renouer
c'est
avec les choses simples,
en fait.
Voilà, l'essentiel, voilà. Et donc, on renoue un peu avec ce peuple des falaises qui savait vivre en harmonie justement avec l'environnement sans le dénaturer. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on voit en dehors des constructions, Vanessa ?
Alors, ce qui est chouette, c'est que à chaque saison, il va y avoir des choses aussi pour la Toussaint. Ils font revivre ce village avec des dizaines d'artisans qui vont venir travailler des métiers ancestraux. Mais on n'est pas dans l'éco-musée des années 80 poussiéreux. Hein.
D'accord.
C'est très chouette. Et vous avez toujours, évidemment, des visites guidées très poussées, et puis même des animations comme celle-là.
Dans un séchoir à tabac qui est vraiment un bâtiment typique du Périgord, on a mis en place toute une sonothèque qui a été récoltée avec des centaines de témoignages de paysans des vallées et qui nous racontent les fermes d'autrefois.
Alors voilà, exemple.
Eh bien le mouton, voilà, on considérait qu'il ne coûtait rien à la ferme. Alors,
c'est
incroyable.
C'est chouette d'avoir ces sons. Parce que justement.
C'est de la mémoire, ça. Hein.
Complètement.
Et voilà. Pourtant, il a l'air tout jeune, le jeune qu'on a entendu.
Eh ben ouais, Louis, il a une trentaine d'années. C'est ça qui est beau dans le projet. Ça donne beaucoup plus de sens. Parce que lui et sa sœur Marie, qui a aussi une trentaine d'années, ils se sont battus pour faire revivre en fait toutes ces valeurs. Elle s'occupe de la ferme paysanne. Là, on est dans l'agrotourisme. Il y a de la production, évidemment, hein, avec un jardin potager, un verger, un jardin médicinal. On peut trouver d'ailleurs certains de leurs produits là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la transmission de l'autonomie, du bon sens des anciens, comme les joales, ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, la permaculture ou le compagnonnage.
Ah ben voilà.
On écoute Marie.
C'est de mettre des moutons dans des noyers. C'est bête, hein, mais ça va apporter de l'engrais et en même temps, ça va entretenir la biodiversité, ça va garder un espace propre, etc. Ça peut être d'associer aussi des arbres fruitiers avec tout ce qui est un peu plus arbuste, noisetier, vous voyez, un petit peu plus petit, ou alors à la limite, fruits rouges, pareil, un petit peu plus petit. Donc ça va créer des haies, ça va créer de la diversité. Donc c'est cette démarche-là, essayer de refaire la même chose aujourd'hui en fonction de la nature de notre sol, en fonction de notre climat, etc.
Ça fait super envie, hein.
C'est bien, hein.
Où est-ce qu'on peut aller... Où est-ce qu'on peut aller dormir?
Les cabanes de Jeanne, hein. C'est à Saint-Amand-de-Colly. On reste dans l'insolite et la nature.
Ah bah c'est super. Le Périgord qui est connu, qu'est-ce que vous travaillez dans cette
émission?
Et donc on va parler de tarte aux noix avec vous, Olivier.
Elle parlait de ses moutons au pied des noyers. Il y a une toute petite période de l'année durant laquelle, et c'est maintenant, on peut déguster ceci, ce que vous avez là devant vous, ce sont les noix fraîches. Alors, excellent. Je vais essayer de vous en casser.
Sans se casser une phalange.
Voilà, sans casser une phalange, voilà. Alors, la noix fraîche, c'est très différent de cette noix qu'on trouve tout au long de l'année. Ouais. Elle peut bénéficier évidemment d'une appellation d'origine protégée depuis 2002, puisque le Périgord est une grande région productrice de noix. Vous parliez tout à l'heure des périodes très ancestrales. On a trouvé des traces de consommation de noix qui ont plus de 17 000 ans. C'est donc dire qu'il y a une histoire qui est très forte entre le Périgord et les noix. Et moi, avec les noix, aujourd'hui, en ce dimanche, j'ai envie de faire une tarte aux noix. Alors, c'est assez simple, en fait, à réaliser. Il vous faut une pâte brisée et il vous faut des cerneaux de noix. Alors ça, vous les achetez éventuellement déjà séchés, parce que vous n'avez pas l'occasion de trouver de la noix fraîche. Vous allez concasser tous ces cerneaux de noix. Il en faut à peu près 250 grammes. Vous allez prendre 100 grammes de sucre que vous allez faire fondre dans une poêle comme pour faire un caramel. Le sucre fond, il change de texture, il devient liquide, la couleur devient caramel. Vous rajoutez une belle noix de beurre, un petit peu de crème. Là, on est vraiment dans l'esprit d'un caramel. On enrobe nos cerneaux de noix avec tout ça. On sort du feu, on laisse légèrement refroidir et on casse trois œufs, trois jaunes d'œufs qu'on vient mélanger dans cette préparation qui va être notre crème de noix. Cette crème de noix, qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout simplement venir garnir la pâte brisée au four pendant 30 minutes. Ça va légèrement caraméliser. Vous allez avoir vos noix qui sont encore un petit peu croustillantes. Vous avez cette pâte. Vous avez une délicieuse tarte aux noix. Hyper facile à faire. Et puis, puisqu'on était, on est toujours dans le Périgord, si vous êtes en mal d'inspiration ou vous avez quelques envies de challenge culinaire, j'ai quelque chose pour vous. Ça s'appelle les défis culinaires en Périgord. Ce sont deux anciens candidats de Masterchef, Philippe Mesuron et Philippe Essèche. Ils accueillent des petits groupes de 4 à 12 personnes. Le programme, on va faire le marché, on se met en cuisine, on se challenge, gentiment évidemment, on reçoit quelques conseils et puis on passe surtout
En famille ou en...
Vous voulez qu'on se fasse
on va perdre forcément à côté de vous, Olivier.
Pour plus d'informations, c'est sur dordogneperigordtourisme.fr et puis voilà, vous êtes au cœur d'une magnifique région de gastronomie.
Et on vous met toutes les infos évidemment sur europe1.fr puisque toutes les chroniques sont podcastées évidemment. Merci à tous les deux, bon dimanche et les infos arrivent dans un instant. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce dimanche matin. Il est 7h.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et à 7h, vous êtes informé par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Un revenant et un sortant. Lula face à Jair Bolsonaro. Choix cornélien pour les Brésiliens qui votent aujourd'hui alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à tomber dans la pauvreté. Un reportage du correspondant d'Europe 1 à suivre dans ce journal.
Le retour du nez qui coule, j'ai bien placé pour remplacer simple rhume ou bien un nouveau cas de Covid. Les contaminations sont en hausse et une nouvelle campagne vaccinale d'ailleurs prévue avant l'arrivée des maladies hivernales.
Et puis le Messi est bien de retour à Paris. Le joueur argentin force l'admiration de ses coéquipiers depuis le début de la saison. Auteur encore d'un très beau but hier soir face à Nice.
Dans la prochaine demi-heure, on va parler de ces influenceurs qui font du prosélytisme religieux sur les réseaux sociaux. Après le journal, mon invité, l'essayiste Hakim El-Karoui. Et puis, les feuilles qui tombent, les belles couleurs de l'automne, elles ont inspiré Mathieu Alterman. Vous entendrez ça juste après la tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, tristoun et pluvieux sur les Hauts-de-France, maussade et humide entre Brest et Auxerre, plus calme et ensoleillé de Bordeaux à Nice après l'habituelle dissipation des brouillards du matin.
Voilà, c'est l'automne. Merci Valérie, on vous retrouve à la fin du journal. Au Brésil, l'ancien président de gauche affronte donc l'actuel chef d'extrême droite.
Lula face à Jair Bolsonaro. 156 millions de Brésiliens doivent trancher aujourd'hui. Tension maximale entre deux ennemis jurés. Lula est donné favori dans les sondages. Il promet notamment de nourrir la population puisque le mandat de Bolsonaro se termine avec 30 millions de Brésiliens affamés. Un reportage sur place de Jean-Paul Gérez.
Favela d'Itacaranha, à Salvador de Bahia, samedi après-midi. Des femmes espèrent dans le local de la centrale unique des favelas la distribution d'un panier contenant des produits de première nécessité ou une bouteille de gaz pour cuisiner. Parmi elles, Zilma, 40 ans.
Avant la pandémie, c'était déjà difficile. Mais après, ça a été pire. J'ai pu manger grâce à ma famille et au panier de première nécessité qu'on nous distribue ici. Mais c'était difficile parfois de se retrouver sans gaz, de devoir cuisiner à l'alcool ou choisir entre le repas du midi et celui du soir.
Pour Marcio Lima, de la centrale unique des favelas, la situation ne cesse de se dégrader.
Quelqu'un qui perçoit un salaire minimum au Brésil ne parvient même pas à acheter un panier avec des produits de base. Et ceux qui ne travaillent pas vivent en dessous du seuil de pauvreté. À Salvador, ça représente 240 000 familles.
Récemment, Jair Bolsonaro a fait adopter un plan de 8 milliards d'euros d'aide pour les plus modestes. Pas suffisant pour convaincre Claudia, 47 ans, de voter pour lui.
Aujourd'hui, si je dois voter, ce sera pour Lula, car il a fait beaucoup pour les pauvres gens.
Une image de sauveur et des attentes que devra assumer Lula s'il est élu. À Salvador de Bahia, Jean-Claude Gérès pour Europe 1.
Et pendant ce temps, le bilan s'alourdit encore en Floride. 44 personnes sont mortes après le passage de l'ouragan Ian. Le président américain se rendra sur place la semaine prochaine. Joe Biden et sa femme qui iront aussi à Porto Rico pour constater les dégâts causés par l'ouragan Fiona cette fois.
En France, une seconde main courante a été déposée par l'épouse d'Adrien Quatennens.
Le signalement concerne des textos envoyés par le député du Nord qui s'est mis en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise après avoir reconnu des violences sur sa femme. Il a d'ailleurs été entendu lundi au commissariat de Lille dans le cadre d'une enquête pour violence conjugale.
Alors qu'à Grenoble, c'est une fusillade qui a éclaté dans un bar du quartier de Saint-Bruno hier.
Suivi d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre, un suspect aurait visé les policiers avec une kalachnikov. Il l'aurait alors blessé à l'épaule en lui tirant dessus à trois reprises. Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police.
Grenoble, c'est une catastrophe. Il y a des voyous qui étaient lourdement armés avec des armes automatiques qui étaient bien préparées puisqu'ils étaient à bord d'une Audi lorsqu'ils sont arrivés devant un bar en plein cœur de Grenoble et qui ont transformé en fait le bar de Grenoble en zone de guerre puisqu'ils ont tiré, ils ont terrorisé les gens qui étaient présents et par malchance pour eux, il y a des policiers qui n'étaient pas loin de la brigade spécialisée de terrain de Grenoble, donc des policiers aguerris expérimentés qui luttent contre la délinquance dure, qui les ont pris en charge et durant cette prise en charge, en fait, ils ont visé des policiers puis à un moment donné, se sont retrouvés face aux policiers qui ont été mis en joue par ces criminels. Aujourd'hui, les voyous n'ont plus peur de tuer un policier, c'est même d'une manière devenue banale. Pour eux, ça a été banalisé. La vie d'un policier en ce moment ne représente plus rien, mais en plus, ils n'hésiteront pas à sacrifier un policier pour pas qu'on puisse les attraper.
Mathieu Vallée interrogé par Alexandra Gégy. Et puis à Nantes, près d'un millier de personnes ont manifesté hier contre l'insécurité après plusieurs faits divers.
Un chiffre à présent, 50 000 nouveaux cas quotidiens à ces derniers jours. Pas de doute, une nouvelle vague de Covid est bien là.
Et oui, on ne les compte plus vraiment, hein, d'ailleurs, tout comme les campagnes de vaccination. Une nouvelle va débuter demain avec de nouvelles doses adaptées aux variants Omicron. Alors, qui pourra
en bénéficier, Yasmina Katou?
Eh bien, toute personne peut se faire vacciner si elle le souhaite. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé François Braun. Mais dans son avis, la Haute Autorité de Santé recommande de cibler les personnes fragiles. Cela concerne entre autres les plus de 60 ans, les immunodéprimés, les femmes enceintes ou encore les professionnels de santé. Face à la reprise de l'épidémie, les autorités incitent les Français concernés à recevoir leur injection au plus vite, sans attendre le vaccin contre la grippe qui ne sera disponible que d'ici 2 semaines, car comme l'année dernière, il sera possible de recevoir les 2 sérums en même temps. Les 3 nouveaux vaccins sont adaptés à Omicron. Il y a d'abord ceux de Pfizer. L'un est adapté au sous-variant BA1, l'autre à BA4 et BA5. Le laboratoire Moderna a lui adapté son sérum au variant BA1. En plus d'Omicron, les 3 vaccins contiennent aussi la souche originelle de Wuhan, ce qui devrait apporter une protection plus importante selon les scientifiques. Ces vaccins serviront uniquement en dose de rappel.
La précision de Yasmina Katou.
Il est 7h06 sur Europe 1 et le Paris Saint-Germain reprend les commandes de la Ligue 1.
Après une victoire à domicile 2-1 hier soir face à Nice, il a quand même fallu attendre un but de Mbappé remplaçant au coup d'envoi pour voir Paris prendre définitivement l'avantage en fin de rencontre. Pourtant, Lionel Messi avait mis son équipe sur la bonne voie avec un très beau coup franc, son 60e en carrière, mais son tout premier avec le PSG. Le défenseur et capitaine Marquinhos est admiratif.
Ah, c'est exceptionnel. Moi, j'ai vu juste de derrière, j'étais juste derrière lui. Et je vois le ballon passer, le gardien qui n'a pas bougé. On a vu quand il a sorti que ça a été plus déjà. Quand je vois le gardien, il n'a pas vu le ballon. C'est important d'avoir des joueurs comme ça qui débloquent un match avec un coup franc. On a vu le match a été compliqué en première mi-temps. Nous, on n'arrivait pas à trouver beaucoup d'espace pour trouver nos occasions. Nice nous a bien bloqué. Un but des coups francs comme ça, ça peut ouvrir un match et débloquer un match.
Paris en tête de la Ligue 1, donc devant Marseille. Hier, victoire aussi de Rennes contre Strasbourg. Et puis fin de cette 9e journée ce dimanche, avec notamment Lille qui se déplace à Lorient, Monaco qui reçoit Nantes et Lens face à Lyon ce soir.
Et c'était le journal présenté par Clotilde Dumais. La météo à présent, Valérie Darmon, si on résume, au nord c'est l'automne, au sud c'est l'été.
Voilà, presque, avec une dorsale anticyclonique qui s'installe entre les Açores et l'Europe centrale. Donc du coup, eh bien, la formation de brouillard ce matin en Gironde, dans les Landes, au Pays Basque et dans l'Entre-deux-Mers vont se dissiper, bien sûr. Ensuite, de beaux après-midi vont s'installer. Ce sera le cas pour toute la semaine, des après-midi ensoleillés et doux. Donc c'est presque l'été encore dans le sud. C'est le cas aussi aujourd'hui pour le nord, avec l'automne et la pluie que vous trouvez ce matin si vous ouvrez vos volets en Bretagne, Pays de la Loire, région centre, Bourgogne, Franche-Comté. Plus de précipitations encore entre Lille et Compiègne. Et puis des éclaircies entre Gironde et Lyonnais et du soleil donc en allant vers le sud. C'est le programme du jour côté ciel.
Et il fait plutôt doux. Hein.
Alors je commence par les maximales des maximales. 28 à Perpignan et Montpellier.
Ah oui, fait chaud même.
Donc ça fait rêver pour nous au nord. 27 à Carcassonne et Nîmes, 26 à Avignon, 25 à Manosque et Saint-Giron ainsi que Marseille. À Bordeaux, 24, tout comme à Lyon et à Grenoble, 22 à Angoulême et Brive-la-Gaillarde, 21 à Paris, 20 degrés à Caen et La Rochelle, 18 à Cherbourg et à Nancy.
Merci beaucoup Valérie Darmon, on vous retrouve à 7h30 et dans un instant je reçois Hakim El-Karoui qui est consultant. TikTok est-il le nouveau refuge des islamistes? Je lui poserai la question, à tout de suite.
Europe Matin Weekend, Léna Aigmonier.
L'interview actuelle nous fait revenir à l'école ce matin où un phénomène inquiète évidemment avec cette note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qui a décrit une offensive menée sur Internet et qui vise à déstabiliser l'institution scolaire. C'est un vrai phénomène et c'est la raison pour laquelle nous recevons Hakim El-Karoui. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes essayiste, vous travaillez depuis très longtemps sur ces questions. Vous avez publié, je pense notamment à l'islam, une religion française chez Gallimard et plus dernièrement, Les militants du djihad, portrait d'une génération, ça c'est chez Fayard. Alors d'abord les faits, incitation à la prière à l'école, banalisation des vêtements religieux, TikTok fait du prosélytisme. Est-ce que vous avez l'impression que la situation est en train d'empirer, de se dégrader?
Je ne sais pas si elle se dégrade. Ce que je sais, c'est qu'il y a clairement, dans une partie de la jeunesse française, un repli identitaire, ou plutôt l'invention d'une nouvelle identité, cette identité étant fondée sur un certain nombre de signes d'appartenance à l'islam et à un islam très conservateur, et que tous les moyens pour diffuser cette identité et cette façon de se comporter sont utilisés. Et donc évidemment les réseaux sociaux, et donc évidemment le réseau social qui a le plus de succès aujourd'hui chez les adolescents, TikTok.
Alors le journal La Croix a fait une très très grande enquête, hein, patiente et assez dépassionnée d'ailleurs sur le sujet. Il y a quelques mois, on y apprenait que des jeunes confiaient vouloir se convertir ou même s'être convertis à l'islam après avoir visionné ces contenus. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle influence quand même sur de très jeunes esprits ?
Ben, c'est que ces très jeunes esprits, ils ont peu de moyens d'information et TikTok est d'une certaine manière un moyen d'information. Et c'est surtout une façon de se conformer au reste du groupe. En général, de faire comme les autres. Et ce qui est frappant, c'est que c'est vrai dans les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain, dans la vraie vie. En fait, il y a une telle concentration de populations musulmanes, notamment des jeunes, dans un certain nombre de quartiers en France, avec une très mauvaise répartition de la population, que les militants, les prosélytes, ils sont en train, dans un certain nombre de cas, de fixer la norme. De fixer la norme de comportement, de fixer la norme de croyance, et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Et donc, le terrain est articulé avec le digital, le réseau social, et à chaque fois, il faut faire comme les autres. Dans le travail que j'ai réalisé sur les djihadistes, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a 25% de convertis chez les djihadistes. Et dans la population musulmane française, on doit être à 3-4%. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de convertis chez les djihadistes que dans l'ensemble des musulmans. Et ces convertis, c'est qui ? En fait, c'est les copains des jeunes des quartiers qui sont partis en Syrie.
Mais c'est un peu ce qu'on
ils se sont convertis pour faire comme eux.
C'est un peu ce qu'on constate aussi à l'école. On voit que la laïcité recule, mais pas forcément, effectivement. Ça prolifère, ça se prospère également dans d'autres jeunes, en fait, qui ne sont pas forcément croyants du tout. Hein. Ils comprennent, en fait.
Non, mais ils cherchent du sens. Ils cherchent une communauté d'appartenance. Et puis, ben, à l'adolescence, on a envie d'être comme les autres. Donc, quand autour de soi, que ce soit sur les réseaux, avec les phénomènes d'enfermement algorithmique, ou que ce soit dans les quartiers, ben, en fait, ceux qui font la norme, c'est les copains, c'est pas l'État, l'institution ou l'école dans ses valeurs traditionnelles.
Alors, est-ce qu'on a une idée, vous qui travaillez sur le sujet, de qui sont ces imams 2.0 ?
Ah oui, on les connaît bien. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont énormément de succès. Mmh. Ils font partie des plus grands influenceurs d'idées en France. Je ne parle pas des musulmans, je parle de l'ensemble de la population française. Un Rachid Elgey, il a 2,3 millions de followers sur Facebook. C'est l'ancien imam de Brest qui a recentré son discours après les attentats. Mais c'est quelqu'un qui a une influence qui est absolument considérable dans la jeunesse française.
Alors c'est un problème que les pouvoirs publics, est-ce qu'ils les mettent un peu sous le tapis ? Parce que Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, nous dit « Nous surveillons la situation ». On a envie de vous demander, vraiment, c'est le cas ?
Oui, et la preuve, la note du CIPDR, le Comité interministériel prévention de la radicalisation. La difficulté pour les pouvoirs publics, c'est qu'il n'y a aucun propos délictueux maintenant, aujourd'hui, dans la bouche de ces prédicateurs. Et il faut bien comprendre qui ils sont. Ce sont des influenceurs YouTube ou TikTok qui fonctionnent comme les autres influenceurs. Ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ressemblent à ceux qui les suivent. Et du coup, ils savent très, très bien leur parler des problèmes qui les concernent, des questions qui se posent. Ils leur apportent des réponses. Ils leur donnent, c'est vraiment des guides. Les pouvoirs publics, tant qu'il n'y a pas d'incitation à la haine, à la discrimination, l'antisémitisme, etc., en fait, ils ne peuvent rien faire. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est encourager d'autres jeunes avec un discours, y compris un discours sur l'islam musulman, à répondre, à s'engager sur ces mêmes réseaux, mais avec un discours qui est différent, qui n'est pas un discours de séparation, voire de rupture, mais qui est un discours qui explique que on peut être français et musulman sans que ça pose le moindre problème.
C'est là que se joue, c'est là l'enjeu, en fait, hein, c'est de faire cohabiter ces deux mondes-là.
Voilà, mais du coup, c'est une bataille d'idées. Ce n'est pas une bataille avec la loi ou avec l'enfermement. Tout pour une raison simple, c'est qu'il y a un principe de base qui est quand même la liberté d'opinion. Et comme disons, les limites du respect des personnes ne sont pas franchies dans ces propos, on ne peut pas les interdire. Et donc, la seule façon de les contrer, c'est d'avoir un discours à la fois sur la société française en général, qui puisse être entendue par ces jeunes. Et puis aussi un autre discours sur l'islam qui permet de dire, tu veux être musulman, très bien, mais tu peux être musulman et français comme les autres, sans que ton identité religieuse entre en opposition avec ton identité républicaine.
Et qui a multiples façons, effectivement, de pouvoir pratiquer sa religion, tout en restant, évidemment, dans le cadre. Merci beaucoup de votre éclairage, Hakim El-Karoui. Je rappelle votre ouvrage, hein, parce qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps, mais on peut encore se le procurer. Les militants du djihad, portrait d'une génération, et c'est chez Fayard. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci à vous.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier. Et à 7h17, après l'interview actuelle, Clotilde Dumais revient pour l'Info Express. Clotilde.
Au moins 129 morts en Indonésie après un mouvement de foule. Des supporters ont envahi un terrain de football après la défaite de leur équipe face à un club rival. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux policiers. Plusieurs personnes ont été écrasées et sont mortes asphyxiées, la plupart ayant succombé à l'hôpital. Le président indonésien ordonne ce matin une enquête sur la sécurité des matchs de football. Elle tire sa révérence, dit-elle dans le journal du dimanche. Virginie Calmel renonce à candidater à la présidence des Républicains. La justice l'y avait pourtant autorisé malgré le rejet de sa candidature par la haute autorité du parti. L'ancienne numéro 2 des LR dénonce des irrégularités et parle d'une tartufferie destinée à installer Éric Ciotti à la tête du parti. Paris condamne les violences contre l'ambassade française au Burkina Faso. Après un nouveau coup d'État, les putschistes ont affirmé que le lieutenant-colonel Damiba planifiait une contre-offensive depuis une base française. Information démentie par la France et par le principal intéressé qui refuse de quitter le pouvoir et appelle les putschistes à revenir à la raison. Et puis 9e pole, position de la saison pour Charles Leclerc. Le pilote Ferrari partira en tête au Grand Prix de Singapour devant Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Le leader du championnat Max Verstappen ne sera qu'à la 8e place. Départ prévu à 14h heure française.
Merci Clotilde. Dans un instant, Mathieu Alterman sort son plaid. Il va nous expliquer pourquoi l'automne est la saison la plus inspirante de la pop culture. A tout de suite, merci de commencer la journée sur Europe 1.
Europe Matin Weekend.
Lénaïque Monnier.
Mathieu Alterman, bonjour.
Bonjour.
Vous nous dites ce matin que l'automne est la saison la plus inspirante de la pop culture.
Ça y est, il fait froid, il pleut, les feuilles jaunissent et tombent. Je vais retrouver le plaisir du pull en cachemire sur un pantalon en velours côtelé et le délicieux goût de la madeleine trempée dans la chicorée.
Vous êtes un petit vieux, Mathieu, franchement.
Les taquines, vous ne comprenez pas. L'automne dans la pop culture, c'est juste un sommet d'élégance. Le film Quand Harry rencontre Sally. Il ne pourrait être aussi beau sans les feuilles mortes de Central Park. Et d'ailleurs, en parlant de feuilles mortes,
c'est une chanson.
Il s'agit tout simplement de l'une des chansons françaises les plus connues au monde. Quant à la September Song composée par Kurt Weill, elle fit de Frank Sinatra une star.
Alors je vois où vous voulez en venir, hein, Mathieu. C'est une saison chic et sophistiquée.
Mais pas que.
Tout simplement.
Ben oui, mais pas que. Elle peut aussi inspirer le rock, tel Guns N' Roses avec November Rain. Ou encore U2 avec October. Neil Young a même consacré tout un album à la saison avec son cultissime Harvest, ce qui signifie la moisson en anglais.
Et puis c'est vrai qu'au cinéma, les couleurs d'automne sont très très belles, hein, affinées, les plus belles peut-être.
Bah on les retrouve dans Will Hunting avec Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck sur les chansons d'Eliot Smith. Quant à la sublime sonate d'automne de Bergman, son titre est déjà une invitation aux joies du plaid. Mais surtout, l'automne est une saison dans laquelle chaque jour est nostalgique du précédent. L'atmosphère y est proustienne en diable et on prend plaisir à se souvenir des beaux moments passés et à peine laissés derrière nous. Sur ces notes contemplatives, bon dimanche.
C'est votre plaid, hein, Mathieu.
Je prends mon plaid.
Bon dimanche. Europe 1. On reste dans le domaine musical avec vous. Bonjour Fabrice Lafitte.
Bonjour Lénaïque.
Alors on va découvrir l'histoire d'une chanson, hein, comme d'habitude, une chanson qu'on écoute autrement. On est au début de l'année 80. Alain Bachung, qui a alors 35 ans, a besoin d'un succès pour relancer sa carrière.
Oui, il faut dire que son dernier album en date, Roulette Russe, sorti un an auparavant en mars 1979, est un échec commercial. Alain Bachung planche donc déjà sur un nouvel album dont la saveur sera plus blues. Parmi les titres, Max Amphibie, prévu pour être la face B du single Elle se fait rougir toute seule. Écoutez bien attentivement les paroles.
Fais mon footing au milieu des algues et des cons. Fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Faudra peut-être que je
remonte. Ça nous rappelle déjà un petit peu Gabi Gabi, non?
Exact, Lénaïque. Et pour le début de ce morceau, Alain Bachung veut du saxophone, comme sur sa chanson préférée, Reminiscing de Buddy Holly, sortie en février 1963.
I'm just sitting here
Au mois de janvier 1980, Alain Bashung est dans les mythiques studios Ferber dans le 20e arrondissement de Paris. Dans ses locaux ont enregistré Cat Stevens, Frank Zappa, Nina Simone, Black Sabbath, Iggy Pop, Michel Petrucciani ou encore Serge Gainsbourg. Perfectionniste jusqu'au dernier moment, Alain Bashung peaufine son texte, ajoute, rature des mots, sans jamais être vraiment satisfait du résultat. D'autant qu'il manque encore un couplet. Son complice, le parolier écrivain Boris Bergman, profite de l'absence du chanteur, parti aux toilettes quelques minutes, pour ajouter au texte « Alors à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules ? Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules ?» D'ailleurs, c'est un grand jeu entre eux de renchérir les paroles avec des jeux de mots. Finalement, Alain Bashung trouve ça très drôle et ne change rien au manuscrit. À la sortie de Gabi au Gabi en février 1980, Jackie Jakubowicz, futur Jackie du Club Dorothée, l'attaché de presse du chanteur, a beaucoup de difficultés à faire programmer ce titre sur les radios pendant presque 7 mois. Et c'est seulement le 16 août 1980 que ce 45 tours entre dans le hit parade d'Europe 1 et s'y maintient durant 18 semaines.
Alain Bashung, Gabi au Gabi, qui va se vendre finalement à plus de 800 000 exemplaires. Merci Fabrice Lafitte.
Bon dimanche.
Et dans un instant, vous restez bien avec nous. Le journal de 7h30 arrive avec Émilie Dette.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et on vous remercie d'avoir choisi Europe 1 ce dimanche matin. On vous espère en très grande forme pour écouter le journal d'Émilie Dès puisqu'il est 7h30. Bonjour Émilie.
Et bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Qui de Lula ou de Bolsonaro sera élu président du Brésil? Premier tour de la présidentielle aujourd'hui avec un avantage à l'ex-chef d'État selon les derniers sondages.
L'Ukraine reprend la ville de Limano russe, ville stratégique située dans la région de Donetsk, nouvellement annexée. Et Volodymyr Zelensky prévient pas de nouveaux drapeaux ukrainiens vont bien flotter sur le Donbass.
Et puis Gérald Darmanin est en Martinique, 2 jours de visite consacrée à la sécurité avec, en ligne de mire, la lutte contre la circulation d'armes à feu.
Et justement, au programme de la prochaine demi-heure, cette une du journal du dimanche sur les villes moyennes qui sont rongées par la drogue. On verra aussi comment bien choisir la mutuelle de son animal de compagnie avec Valérie Darmon. Et puis juste avant le journal de 8h, Christophe Bordet parlera du métier de chasseur d'appartement. Valérie Darmon, avant de parler de petits chats, de petits chiens, une tendance météo.
Et oui, il va tomber jusqu'à 2 semaines de pluie au nord de la Seine, façon pipi de chat. Mais au sud, le printemps revient.
Merci Valérie, on vous retrouve à la fin du journal. Les Brésiliens sont donc appelés aux urnes. Premier tour de l'élection présidentielle aujourd'hui.
Une dizaine de candidats sont en lice, mais 2 favoris clairs se détachent. L'ancien président de gauche, Lula, et l'actuel président Jair Bolsonaro. Jean-Claude Gérez, le correspondant d'Europe 1 au Brésil.
Dans ce Brésil très polarisé, Lula caracole dans les sondages depuis plusieurs mois. Déjà président entre 2003 et 2011, il pourrait même l'emporter dès le premier tour. Sa cote de popularité s'appuie en grande partie sur les classes populaires très impactées par la crise économique qui voient en lui un sauveur. Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite, est crédité de 33 à 38% des intentions de vote. Il bénéficie de l'appui de l'agrobusiness, du lobby des armes et d'une large partie des fidèles évangéliques séduits par les valeurs Dieu, famille et patrie. Mais son bilan est très critiqué. Sa gestion de la pandémie, la pauvreté qui touche 60% de la population, la destruction de l'Amazonie et l'image du Brésil à l'international sont autant de freins à sa réélection. Reste à savoir quelle sera la réaction de ses électeurs en cas de défaite. Le président sortant n'a cessé de remettre en question la fiabilité du vote électronique, pourtant considéré comme l'un des plus sûrs au monde.
Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil.
Au lendemain de l'annexion de 4 régions ukrainiennes, Kiev a repris la ville stratégique de Liman.
Une ville située au nord reste dans la région de Donetsk. De nouveaux drapeaux ukrainiens flotteront sur le Donbass, a prévenu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui met en garde les Russes. Vous serez tués un à un tant que Poutine sera au pouvoir. Un discours offensif, donc, après les nouvelles annexions russes validées par référendum. Selon Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN, il y a de quoi s'inquiéter.
Ce référendum, c'est quand même un pas de plus franchi par Poutine dans son attaque contre l'Ukraine. Donc, bien sûr qu'il faut s'inquiéter parce que normalement, la Russie, ça devrait être un des gardiens de la charte de l'ONU qui interdit ce genre de pratique. Et là, elle fait exactement l'inverse. Donc, le président Zelensky a raison à la fois d'être inquiet, mais aussi de poursuivre sa stratégie. L'inquiétude, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est surtout des actes. Mais là, les Ukrainiens n'ont pas vraiment le choix. En plus, il faut qu'ils essayent de faire ça avant l'hiver, avant que ça soit trop difficile. Et puis, plus ils marqueront de points, plus ça affaiblira la position russe dans cette partie de l'Ukraine. Si on arrêtait la guerre aujourd'hui, Poutine aurait gagné énormément de terrain. Il aurait 1/5 du territoire ukrainien, ceci n'est pas acceptable.
Et Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN, au micro européen d'Alexandra Gégis.
Et puis après la Guyane, Gérald Darmanin est en Martinique.
Il est arrivé hier après-midi, accompagné de Gabriel Attal. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a notamment rencontré les élus locaux. Florin Aussu, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Fort-de-France. La lutte contre la circulation d'armes à feu est la priorité affichée pour ce déplacement.
Un véritable fléau, ce sont les mots de nos responsables politiques ici en Martinique. Un fléau que le ministre entend bien aider à éradiquer. Gérald Darmanin a confirmé au président de la collectivité territoriale l'envoi de renforts en termes d'hommes pour lutter contre ces différents trafics. Il s'agit notamment d'envisager la réouverture de postes de douane dans le nord de l'île. Le ministre de l'Intérieur qui devrait également annoncer très rapidement une mesure forte, une interdiction temporaire de vente d'armes à feu. La mesure ne concernera pas les chasseurs et les licenciés de clubs de tir. Cette lutte contre les trafics d'armes, mais aussi de drogue, sera au centre du programme du ministre ce dimanche. Il doit notamment visiter l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, cette antenne spécialisée chargée notamment d'intercepter les trafiquants de drogue à bord des bateaux qui transitent par les eaux martiniquaises.
Florin Aussu, correspondant d'Europe 1 en Martinique.
Dans le reste de l'actualité, Émilie, Joe Biden va se rendre à Porto Rico demain et en Floride mercredi.
Le président américain qui ira constater les dégâts causés par l'ouragan Fiona le mois dernier et par Yann ces derniers jours. L'ouragan Yann qui, selon un dernier bilan officiel, a provoqué la mort d'au moins 44 personnes en Floride.
À 7h35 sur Europe 1, on parle de football et du Paris Saint-Germain qui reprend sa place de leader en Ligue 1.
Les Parisiens sont venus à bout d'une coriace équipe niçoise. Victoire 2-1 hier soir au Parc des Princes, grâce notamment à un Lionel Messi transfiguré depuis le début de la saison. Jean-François Pérez.
C'est un plaisir qu'on avait un peu oublié la saison dernière et pour tout dire qu'on craignait de ranger au fil du temps dans l'armoire à souvenirs. 28e minute de ce PSG Nice très fermé, coup franc à 20 mètres, Messi s'élance et la magie opère de nouveau. Le ballon s'élève au-dessus du mur, suspend son vol puis redescend brusquement dans le but niçois. Comme téléguidé, Schmeichel, le gardien azuréen, est médusé, le parc jubile. Buteur génial donc, mais aussi auteur de chevauchées fantastiques, comme à sa grande époque barcelonaise. L'Argentin de 35 ans retrouve un niveau de forme étincelant qui fait le bonheur de son entraîneur Christophe Galtier.
J'ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l'entraînement et j'ai un réel plaisir de travailler avec lui. Cette année, il reprend goût à marquer, il arrive à marquer, il est décisif. Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde ? Oui.
Homme de la soirée, Messi a inscrit le 60e coup franc direct de sa carrière, le premier à Paris. Si l'on ajoute l'activité permanente de Neymar et l'entrée gagnante de Mbappé en fin de match, le PSG peut aborder avec sérénité les prochaines échéances. La Ligue des Champions à Lisbonne, dès mercredi face à Benfica et un bouillant classique face à l'OM dans deux semaines au Parc des Princes.
La suite de la 9e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec notamment Monaco-Nantes et Lens-Lyon.
Et c'était le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie. Valérie Darmon, on va se projeter un petit peu sur la semaine. Qu'est-ce qui nous attend ?
Une belle semaine, ensoleillée, le soleil qui s'impose partout demain, les grisailles matinales qui seront nombreuses au nord et au centre, un peu comme aujourd'hui, plus tenaces dans le nord-ouest. Mardi, brumes et brouillards toujours fréquents au nord ainsi que sur le Pays Basque et puis le soleil qui s'impose à nouveau pour tout le monde. Mercredi, de l'Alsace au Lyonnais en passant par le Val-de-Saône, on va retrouver encore ces fameux brouillards, les grisailles qui sont nombreuses près de la façade atlantique et ailleurs, le soleil qui domine toute la journée dès le lever du jour. Jeudi, quelques averses qui peuvent toucher les régions allant des Pyrénées à l'Alsace, mais le soleil qui finit là aussi par s'imposer de nouveau dans la journée par la façade ouest. Vendredi, c'est sans doute la plus belle journée de la semaine, ensoleillée et douce, parce que tous les jours, les températures vont être très agréables, très douces, voire même chaudes dans le sud-ouest. Les minimales vont varier entre 6 et 15 degrés et les maximales atteindre leur apogée mercredi avec 19 à 29 en moyenne.
Merci beaucoup Valérie Darmon, on vous retrouve à 8h. La une du JDD avec Pascal Sceau, bonjour.
Bonjour Lénaïque.
Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche et en une ce matin, eh bien vous pointez une tendance plutôt préoccupante, le trafic de stupéfiants qui touche désormais les villes moyennes et qui s'y implante.
Dijon, Angers, Lorient, Quimper, Blois, saisies de cannabis et de cocaïne, d'argent liquide, d'armes, les opérations liées au trafic de drogue se multiplient dans des villes naguère épargnées. En fait, le narco-banditisme profite d'une hausse générale de la consommation. En 2021, en France, 110 tonnes de cannabis ont été saisies et 26,5 tonnes de cocaïne. Les nouveaux marchés attirent les convoitises et des réseaux locaux dans ces villes moyennes viennent relayer les importateurs internationaux et les grossistes, les brokers qui redistribuent la drogue à l'échelle nationale.
Alors Pascal, vous dévoilez le contenu d'une note qui détaille le phénomène à Dijon. Qu'est-ce qu'elle fait ressortir ?
Les enquêteurs appellent ça la marseillisation, ce qui fait bien sûr référence à Marseille, la ville où il y a le plus d'opérations contre des points de deal en France et où les règlements de compte meurtriers pour le contrôle du business des stupéfiants font régulièrement l'actualité. À Dijon, comme dans des autres villes du même type, le trafic génère de véritables gangs qui contrôlent le marché local. Il provoque aussi une hausse des faits de violence et de l'usage des armes à feu jusqu'alors très rares. Il faut dire que ce commerce illégal est très rémunérateur. Lorsqu'un kilo de cocaïne franchit l'Atlantique, il multiplie sa valeur par 10 et le trafic peut rapporter jusqu'à 80 000 euros par semaine. Pour les enquêteurs, il est parfois difficile d'identifier les points de deal tenus par des vendeurs intérimaires venus d'autres régions. Ceux-ci sont donc des pros du deal, inconnus des policiers ou des gendarmes locaux.
Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pourtant fait de la lutte contre ces trafics une priorité. Est-ce qu'il est mis en échec ?
La police a obtenu des résultats. Elle a ciblé les points de deal dans toute la France pour faire face au trafic souvent multiproduit. Sur les 8 premiers mois de l'année, 9100 opérations de pilonnage ont été menées et le nombre de points recensés est descendu de 3952 à 3266. Le problème, c'est que les organisations criminelles savent contourner les blocages. Parfois, les lieux de vente sont simplement déplacés.
Alors Pascal, le JDD s'intéresse aussi à la question des retraites cette semaine. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, est-il prêt à discuter avec le gouvernement ?
Le responsable du premier syndicat français n'a pas l'intention de boycotter la concertation qui s'engage à la fin de la semaine prochaine. Mais la question de l'âge de départ à la retraite reste un point non négociable. Il dit fermement non au gouvernement sur un report à 65 ans. Les 65 ans, on va les combattre, nous déclare-t-il. Il veut promouvoir des actions communes avec les autres syndicats l'automne. Sera peut-être chaud.
Merci Pascal Saut, directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Et vous restez bien avec nous à 8h20. Vous avez rendez-vous avec Valérie Darmon et Roland Pérez pour tous leurs conseils du quotidien. Tout de suite.
Réveillez-vous.
Informez-vous.
Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et ça vous concerne tous les dimanches matin. Roland Pérez, Valérie Darmon, bonjour vous deux.
Bonjour, bonjour. Bonjour à tous.
Roland, on commence avec vous, avec oui. Le droit du travail qui va occuper nos deux questions du jour. La première est complètement dans l'actualité. Elle concerne les abus signalés par la Sécurité sociale des arrêts de travail obtenus quasiment en un clic. Vous allez nous expliquer tout ça. Comment ça se passe ?
Alors, le gouvernement, vous l'avez entendu, veut dérembourser les arrêts de travail qui sont donnés en téléconsultation. Alors, normalement, quand on est souffrant, on va chez son médecin traitant ou on appelle SOS médecin si la ville où on vit dispose d'un service d'urgence médicale. Où on passe par Internet pour effectuer une téléconsultation. Et c'est ces pratiques qui sont dans le viseur du gouvernement.
Alors, vous parlez des téléconsultations auprès d'un médecin lambda, mais pas de son médecin traitant, par exemple.
Oui, absolument. Voilà. Alors, vous savez, les téléconsultations des généralistes et spécialistes ont connu un véritable boom depuis l'épidémie de Covid. Et jusqu'à cet été, il n'y avait aucun problème pour la prise en charge intégrale de ces consultations médicales. En fait, ce qui est dans le viseur, ce sont les arrêts maladie obtenus en trouvant sur Internet un praticien, j'ai envie de dire, peu regardant sur les arrêts médicaux. Alors, je vous donne un chiffre quand même qui fait froid dans le dos. 100 millions d'euros payés par la Sécu au titre de ces arrêts prescrits à tort peut-être.
Oui, mais justement, Roland, il y a quelques semaines, dans l'émission Zone Interdite sur M6, un reportage a montré combien il était facile, en fait, pour n'importe qui, d'obtenir en ligne un arrêt maladie pour partir, par exemple, en vacances.
Ouais, c'est dingue.
Alors, les faux arrêts de travail se multiplient car c'est très facile, vous l'avez dit, de l'obtenir, car cette enquête, selon cette enquête, parce que même pour soi ou pour un proche, quitte à recourir à plusieurs téléconsultations le même jour, c'est ce que dit cette enquête, pour tomber sur un médecin compréhensif qui trouve parfois refuge dans des bornes, tenez-vous bien, installées dans des supermarchés. C'est complètement dingue.
Alors, c'est dingue, mais c'est surtout que ça va poser un vrai problème qui, ça va brider la demande des patients qui, eux, ont vraiment des difficultés à rencontrer un médecin. Vous parliez des déserts médicaux, par exemple.
Oui, exactement. Alors, vous savez que depuis une convention signée en juillet 21, la téléconsultation ne peut représenter plus de 20% des actes réalisés par le médecin, alors que 6 à 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, d'où la polémique sur cette mesure de déremboursement qui devrait être peut-être effective en janvier 23.
Alors, deuxième question, on reste dans le domaine du droit du travail. On se pose beaucoup la question quand on a quelqu'un qui bosse à la maison en 100% télétravail. Est-ce que mon patron doit prendre en charge un certain nombre de frais, l'électricité, le chauffage ? En ce moment, on en parle beaucoup de la facture qui explose, la connexion à l'Internet, etc. etc.
Alors, il est vrai que ce n'est pas très clair. Et parfois, les employeurs ne donnent pas de détails sur leur obligation. Alors, quand un salarié est placé en télétravail, il engage évidemment des frais. Il existe une allocation forfaitaire versée par l'employeur qui est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de... Bon, allez, vous n'allez pas appeler votre banquier tout de suite pour faire le malin, puisque le montant est de 10 euros par mois pour une journée travaillée par semaine, soit 4 dans le mois, 20 euros par mois pour 2 jours par semaine, soit 8 jours par mois, et 30 euros par mois pour 3 jours travaillés.
Mais si les dépenses du salarié qui télétravaille sont plus importantes, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, lorsque ces montants dépassent les montants que je viens de vous dire, évidemment, qui sont forfaitaires, eh bien, l'exonération des charges sociales n'est possible qu'à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles. Alors, ça peut être, on parle de quote-part, ça peut être une partie du loyer, la taxe d'habitation, taxe foncière, les charges de copro, l'assurance, le chauffage, vous en parliez, l'électricité, la clim, etc. Donc, l'employeur devra définir la quote-part pour bénéficier de l'exonération.
Alors, Valérie, je me tourne à présent vers vous. Quand on télétravaille, on peut en profiter aussi pour caresser son petit chat, son petit chien, ça tombe bien. C'est la journée mondiale des animaux dans 2 jours, hein, c'est après-demain. Et on va voir si avoir une mutuelle ou pas pour son animal de compagnie, c'est important.
Alors, choisir une mutuelle animaux, ben, c'est pas simple. En tout cas, ça, on le sait. Vous, vous avez un chat. Moi aussi, d'ailleurs, on a quasi le même.
Le mien est jeune, donc pas de mutuelle.
Oui, c'est ça. Moi, elle a 21 ans, c'est différent. Les formules, elles sont nombreuses, elles sont très variées. Est-ce qu'on doit en souscrire une ? À partir de quel âge ? Alors, je vous propose d'écouter la réponse de notre invité ce matin, le docteur vétérinaire et comportementaliste, président de l'association Agir pour la vie animale, Thierry Bédossa. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour et avec plaisir.
Est-ce qu'une mutuelle, ça sert vraiment, docteur ?
Alors, je vous livre une expérience de vétérinaire praticien, médecin de famille depuis plus de 35 ans. Je pense que c'est vraiment nécessaire parce que c'est vraiment de la prévoyance. Ça permet de couvrir des coûts auxquels nous, les Français, qui sommes habitués à aller voir des médecins et à ne pas devoir... décaisser d'argent, donc nous les Français on n'est pas habitués au coût réel des soins et que on va voir un vétérinaire et que hélas s'il y a quelque chose qui est intense ou sérieux sur son chien ou son chat, eh bien tout de suite le coût c'est plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, et si on n'a pas un budget conséquent ou qu'on a la peine de prévoir tout ça, eh bien, on se retrouve bien embêté et c'est à cause de ça qu'on peut ne pas être en mesure de faire soigner son animal.
Alors justement, si on est convaincu par la mutuelle, quelle est la meilleure formule ? Comment, à quoi on fait attention quand on souscrit ?
Il faut faire attention parce que les compagnies, pour appâter le client, elles vont proposer différents tarifs. Évidemment, plus le tarif est bas, plus on est attiré par la prestation, mais le problème c'est que le plus souvent quand le tarif est bas, eh bien c'est qu'il y a plein de clauses d'exclusion qui vont faire qu'on ne va pas être en mesure de se faire rembourser.
Docteur, est-ce que la formule prévention c'est la meilleure ? Parce qu'elle comporte souvent stérilisation, vaccination, identification, bilan de santé, et ça on en a de toute façon besoin dès qu'on prend un animal.
C'est vraiment, il y a de plus en plus de compagnies d'assurance, de courtiers qui proposent des contrats d'assurance pour les pets. Donc, c'est pas tellement... En fait, c'est la formule prévention, c'est pas forcément la meilleure formule pour faire face à la maladie tout au long de la vie, pour faire face à l'accident qui va survenir de manière justement imprévisible. Et donc, la formule prévention, c'est une forme de package qui permet de séduire un client en lui proposant quelque chose qui le rassure et qui effectivement s'adresse aux problématiques des premiers mois de vie jusqu'à la première année de vie. Mais ce n'est pas forcément ce qui va permettre le plus de couverture en cas de soins médicaux importants, nécessaires tout au long de la vie, s'il y a une maladie chronique ou en cas d'accident.
Merci beaucoup Thierry Bédossa. On rappelle que vous êtes vétérinaire, président de l'association Agir pour la vie animale. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Roland. Si vous avez des questions à leur poser, vous n'hésitez pas à notre page Facebook est là et puis vous retrouvez la chronique évidemment sur europe1.fr. Christophe Bordet arrive dans un instant. Est-ce qu'on ne deviendrait pas chasseur d'appartements ?
Europe Europe Matin Weekend,
Léna Aigmonier.
Et à 7h53 sur Europe 1, on fait le point sur toute l'actualité avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Près d'un millier de personnes ont défilé hier dans les rues de Nantes pour dire stop à l'insécurité. La maire de la ville doit rencontrer Gérald Darmanin mardi. Elle espère des renforts, 80 agents supplémentaires et une présence continue la nuit dans les quartiers du centre-ville. Elle jette l'éponge. Virginie Calmels renonce à briguer la tête des Républicains. La numéro 2 du parti dénonce dans le journal du dimanche un scrutin biaisé. Joe Biden se rendra à Porto Rico demain et en Floride mercredi pour constater les dégâts causés par le passage des ouragans Fiona et Ian. Ian qui a causé la mort de 44 personnes en Floride. Et puis le président indonésien ordonne l'ouverture d'une enquête sur la sécurité des matchs de foot. Au moins 129 personnes sont mortes hier soir dans une bousculade provoquée par des heurts entre des supporters et la police.
Merci Émilie Dez, 8h05 sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future.
Et comme chaque dimanche, Europe 1 Weekend vous donne des clés pour, vous l'avez entendu, devenir propriétaire. Qui n'a pas rêvé d'acheter sa maison ou son appart ? Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour.
Alors la question ce matin, quand on n'a pas le temps de chercher l'habitation qui va bien, on peut faire appel à...
Chasseurs d'appart. Souvent, on les confond avec les agents immobiliers. Oui, chasseurs d'appart. Alors, est-ce similaire ou non ? La réponse avec une chasseuse d'appart, Sandra Baduel de chez Early Bird.
L'agent immobilier, lui, il travaille pour le compte du vendeur, pour qui il commercialise un bien, alors que nous, chasseurs, on travaille pour le compte des acheteurs et on travaille sur la base d'un mandat de recherche.
Alors, le chasseur immobilier est un accompagnateur, il peut s'occuper de tout, dénicher l'appartement ou la maison avec les critères souhaités, jusqu'à la signature de l'acte chez le notaire.
Alors Christophe, il porte bien son nom, hein, parce que notre chasseuse du jour, elle est un peu enquêtrice. C'est une sorte de Jessica Fletcher de l'immobilier.
Exactement, je voulais faire référence à une série télé que vous regardez souvent, j'imagine. Écoutez, oui, elle fouine Sandra Baduel. Objectif, éviter les pièges.
Notre travail, précisément par l'enquête de voisinage qu'on mène de façon scrupuleuse, on peut s'apercevoir que le restaurant qui est soit au pied de l'immeuble, soit à côté de l'immeuble, ne respecte pas les horaires et du coup crée des nuisances sonores qui sont insupportables dans le quartier. On peut également avoir un appartement qui a été maquillé, c'est-à-dire repeint pour cacher un certain nombre de choses, et notamment par exemple des fissures. Et en discutant avec des voisins, on s'aperçoit que c'est structurel et que les fissures vont revenir. Sous certains aspects, en effet, on est un peu enquêteur.
Alors Christophe, comment le chasseur ou la chasseuse, là en l'occurrence, parvient à savoir que tel ou tel bien est sur le marché ?
Son réseau, les amis, son réseau !
Un réseau, et là je parle du marché parisien qui est surtout, mais pas que, un réseau d'agences. Quand on commence une recherche, on communique cette recherche à tous nos contacts, et c'est vraiment des centaines de contacts. Ces contacts nous donnent la primeur en fait, des biens qu'ils ont rentrés ou qu'ils vont rentrer pour qu'on puisse en bénéficier.
Alors, c'est faire appel à un chasseur immobilier, c'est pas gratuit, évidemment, Christophe.
Évidemment, bien sûr que non. Mais la rémunération est conditionnée.
La rémunération d'un chasseur, elle est exclusivement au succès. Ce qui signifie qu'en fait, nos clients ne payent que si on trouve. Ensuite, c'est un pourcentage du prix d'achat du bien qui est dégressif. Donc, plus le bien est cher, plus le pourcentage diminue. Si je dois donner une moyenne, c'est environ 3%.
Bref, vous l'aurez compris, Sandra Baduel est payée si elle est efficace, tout simplement. Ça doit un peu mettre la pression. Hein,
ça met la pression, mais ça donne l'envie de bien faire aussi.
Absolument.
Merci beaucoup Christophe, bon dimanche à vous.
Bon dimanche.
Et vous restez avec nous puisque le journal de 8h arrive.
Léna Aigmonier.
Votre matinale info sur Europe 1.